7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour, nous sommes le mercredi 21 novembre. Les suites de l'affaire Carlos Ghosn, toujours à la une de l'actualité ce matin. On en parle dès le journal de 7h avec Hélène Zellani, puis à 7h10 avec Nicolas Barré. Est-ce que c'est l'affaire qui embarrasse le gouvernement, nous dira Jean-Michel Apathy. C'est une question qu'il posera à 7h40 et Gérald Darmanin tentera d'y répondre à 8h15 au micro d'Audrey Crespo-Mara. Le congrès des maires de France se poursuit à Paris. Plusieurs centaines d'élus doivent être reçus en fin de journée à l'Élysée. Ils seront nombreux à bouder l'invitation présidentielle, comme David Lisnard, le maire de Cannes et porte-parole de l'Association des maires de France. Il sera mon invité à 7h45. 8h38, on passera un coup de fil à MC Solar. Il est en tournée en concert demain soir à Paris.
On ne croit pas, ça semble irréel. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté.
Le rappeur utilise les mots pour penser les mots. Les autres, MAUX, et vous, vous émergez ? Tout doux, tout va bien. Oui, il fait froid, mais on est là jusqu'à 9h. Prenez votre temps, on vous accompagne. Info et bonne humeur sur Europe 1 ce matin. Bon réveil à tous.
Excellent début de journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h, bon réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Le journal avec vous, Hélène Zellani, bonjour.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Le mouvement des Gilets jaunes qui entre dans sa 5e journée. Les incidents sur plusieurs barrages pourraient nuire au mouvement. Nous irons en Gironde. Carlos Ghosn a beau être encore en garde à vue au Japon, il reste officiellement à la tête de Renault. Mais c'est Thierry Bolloré, le numéro 2, qui assure la gestion au quotidien. Et puis le foot, deux stars du PSG à l'infirmerie, Kylian Mbappé et Neymar, se sont blessés hier soir. Ça tombe mal à une semaine du match capital contre Liverpool en Ligue des Champions. Emmanuel Macron a beau appeler au dialogue hier, on a plutôt eu l'impression d'un dialogue de sourds. Les Gilets jaunes ont bien l'intention de continuer leur mobilisation. Ce matin, un dépôt pétrolier reste par exemple bloqué à Toulouse. Hier, ils étaient environ 10 000 dans toute la France. Les forces de l'ordre ont évacué une vingtaine de sites stratégiques. En Gironde, le péage de Virsac a été saccagé. Stéphane Place s'est rendu... Le péage donc a été saccagé et Stéphane Place s'est rendu quelques kilomètres plus loin sur un barrage filtrant où les manifestants craignent que leur mouvement ne soit discrédité par certains extrémistes.
Ambiance bon enfant sur ce barrage filtrant à cette sortie d'autoroute au nord de Libourne. Ici, les Gilets jaunes mènent une opération péage gratuit. Un coup de klaxon en signe de soutien, un petit signe de la main ou une discussion avec les automobilistes qui ralentissent. Anaïs et Alain portent le Gilet jaune depuis samedi.
On casse rien, on dégrade rien.
Pire ça, c'est les Black Blocs qui sont les foutent le bordel. C'est ce qu'ils font régulièrement partout, ils cassent. Nous, on n'a strictement rien à voir avec ça.
Comment vous vous préservez de cela?
D'abord, on apprend à se connaître. On s'est rencontrés samedi dernier, on se connaissait pas. On voudrait effectivement qu'il n'y ait pas de débordement.
Par petits groupes, on essaye de se gérer, de ne pas se mélanger avec des gens qui sont mal intentionnés.
Les dégradations, la casse pouvant créer des amalgames et ternir l'image des Gilets jaunes, Christian craint l'exploitation politique de ces incidents.
Les gens ils vont dire, ah ouais, mais c'est que les Gilets jaunes, finalement, ils ne sont pas là pour nous défendre, ils sont là pour casser et foutre le bordel. Ce qui est totalement faux. Ça peut arranger, effectivement, le gouvernement pour justement mettre le discrédit sur les Gilets jaunes. On n'est pas à l'abri de ces gens-là qui sont là uniquement pour mettre le désordre. On essaie de les écarter de ce mouvement, mais c'est pas toujours évident.
Déterminés, ces Gilets jaunes vont poursuivre leur action, mais toujours dans le calme, pour mieux faire entendre leurs revendications. Abzac, Stéphane Place, Europe 1.
Sur l'île de la Réunion, le couvre-feu n'a pas été respecté la nuit dernière. De graves incidents ont éclaté dans au moins deux communes, Le Port et Saint-Denis. Des dizaines de jeunes ont affronté les forces de l'ordre. Bilan, 16 policiers blessés, dont un grave, 38 arrestations. Aujourd'hui, les crèches, les écoles et l'université vont rester fermées, ainsi que tous les hypermarchés Carrefour de l'île. Europe 1, il est 7h03.
Carlos Ghosn, présenté à un juge japonais ce matin, il sera ensuite placé en garde à vue pour 10 jours.
Le conseil d'administration de Renault confie provisoirement la direction exécutive du groupe au numéro 2 Thierry Bolloré. C'est donc lui qui assurera l'émission de Carlos Ghosn au quotidien. Mais ce qu'il faut surtout retenir, Emmanuel Duteil, c'est que le constructeur n'a pas voulu destituer son dirigeant.
Carlos Ghosn reste président directeur général de Renault. Pas question de le destituer comme ça en tout cas. Pas question de le faire tout de suite. En France, on respecte la présomption d'innocence, précise un administrateur du groupe. Chez Renault, on a assez peu apprécié les méthodes de Nissan. Même si le ton est polissé, le communiqué publié à l'issue du conseil est sans ambiguïté. Les administrateurs demandent à Nissan de lui transmettre l'ensemble des informations en sa possession. Autrement dit, comme laisse entendre un autre membre du conseil, si tout ce que l'on reproche à Carlos Ghosn est confirmé, on avisera. Mais là, ce ne sont que des soupçons. Il n'est qu'empêché. Gardons notre sang-froid, précise-t-on. Il faut dire qu'il y a aujourd'hui une sorte d'affrontement avec Nissan. L'allié japonais n'a pas prévenu en effet Renault de la procédure et de l'arrestation de son dirigeant. C'est très mal passé en interne. Du coup, pour le moment, côté français, on veut envoyer un signal clair aux salariés et aux fournisseurs. L'entreprise est tenue et ça tourne, nous a-t-on dit, ce qui permet de se laisser un peu de temps pour faire toute la lumière sur cette affaire.
Emmanuel Dutheil, chez Nissan, le conseil d'administration se prononcera sur le limogeage de son président demain matin et on apprend ce matin que le groupe pourrait lui aussi faire l'objet de poursuites judiciaires. Comme hier, les maires vont se retrouver porte de Versailles aujourd'hui pour la suite du congrès de leur association. On le sait, Emmanuel Macron ne fera pas le déplacement cette année, mais il a invité plusieurs centaines d'entre eux ce soir à l'Élysée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait grincer des dents au point que certains de ces maires déclinent l'invitation. Reportage au congrès, Aurélie Herbemont.
Une réception à l'Élysée plutôt qu'une visite au congrès des maires, pour certains élus, c'est une mauvaise manière faite par le chef de l'État.
C'est dommage parce que c'est vrai que c'était pour tous les maires l'occasion de l'écouter, mais bon voilà, maintenant il vient pas. Hein.
Il tient pas sa parole, c'est un peu dommage. C'est un peu frustrant pour nous.
Manque de considération, voilà, c'est ce que je ressens depuis quelques temps.
Ces maires ont reçu un carton d'invitation pour l'Élysée, ils iront, mais pour cet élu PS de la Nièvre, pas question d'y aller. Il boycottera la réception car c'est porte de Versailles qu'il voulait voir Emmanuel Macron.
Il aurait pu y avoir des échanges avec la salle. C'est ça la démocratie aussi. On se sent humilié par ce gouvernement qui est un gouvernement de technocrates et qui n'écoute pas la base, les élus de terrain qui, eux, connaissent bien la population.
L'an dernier, le président avait essuyé quelques sifflets ici. Ceci explique cela, s'amusent certains maires. Cette élue sartoise, elle, n'est pas conviée ce soir et pourtant, elle aurait bien aimé raconter son quotidien.
Les difficultés d'être maire dans les très petites communes.
Des maires qui, pour la moitié d'entre eux, ne souhaitent pas se représenter en 2020.
Aurélie Herbemont.
Et parmi ces maires qui n'iront pas à l'Élysée ce soir, celui de Cannes, David Lisnard, il est mon invité à 7h45.
Europe 1 vous le révélait hier, La République En Marche est visée par une enquête préliminaire, enquête ouverte par le parquet de Paris sur des dons de 144 000 euros remontant à 2017, dons dont l'origine n'a pas pu être identifiée.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal, nous allons nous rendre dans le plus grand chantier naval d'Europe, à Saint-Nazaire, où 250 salariés ont déserté leur poste sans prévenir la direction. On vous dit pourquoi dans quelques instants. A tout de suite, bon réveil à tous, vous écoutez Europe 1.
Il est 7h08, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zellani, le journal de 7h, avec cette scène pour le moins étonnante qui s'est déroulée la semaine dernière au chantier de l'Atlantique de Saint-Nazaire.
Ah oui, 250 salariés d'un sous-traitant ont pris la poudre d'escampette. Ils se sont évanouis dans la nature pendant 48 heures, ont quitté leur poste de travail sans prévenir personne, pas même la direction des chantiers. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'ils avaient eu vent d'une enquête pour travail illégal à Saint-Nazaire. François Coulon.
Les 250 chaudronniers venus de pays de l'Est travaillaient sur la construction de deux paquebots. Mercredi matin, ils sont à leur poste comme d'habitude. Mais quelques heures plus tard, évasion massive. Alain Georget, délégué CGT des chantiers de l'Atlantique.
D'un seul coup, 250 travailleurs ont plié bagages et ont disparu du chantier dans la plus grande confusion. Les gens qui étaient autour se demandaient ce qui se passait. Ça a fait un choc. Celui qui a été pris la main dans le pot de confiture préfère déguerpir pour ne pas avoir à rendre des comptes et se mettre à l'abri. C'est une attitude de truand et c'est extrêmement choquant.
La fuite soudaine est liée à une enquête menée par l'Office central de lutte contre le travail illégal. Dans son collimateur, l'entreprise sous-traitante Litana, Christophe Morel, délégué CFDT.
Tout le monde est un peu tombé de sa chaise. Notre direction, comme nous, les organisations syndicales, ça nous tombe dessus comme la foudre.
Vous suspectez quoi ?
Détournement de fonds, non-respect de la législation sociale. Enfin bon, on est dans le pénal quand même. Quand on a un juge d'instruction qui est nommé, c'est qu'en général, c'est assez lourd.
Litana, basée en Lituanie, n'a pas réagi à nos sollicitations. Saint-Nazaire, François Coulon, Europe 1.
On passe au football avec un concours de circonstances assez désastreux hier soir pour le Paris Saint-Germain.
Oui, ces deux vedettes se sont blessées presque au même moment lors de matchs amicaux. Kylian Mbappé, lors du match gagné par les Bleus 1-0 face à l'Uruguay. Et Neymar, lors d'un Brésil-Cameroun. C'est vraiment pas de chance, Simon Rubin.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Neymar avait à peine touché le ballon qu'il s'effondrait hier soir sur la pelouse, blessé aux adducteurs. 50 minutes plus tard, Kylian Mbappé tombe et se blesse à l'épaule. Il finira par quitter le terrain lui aussi. Problème, ces deux blessés blessures interviennent à une semaine de PSG-Liverpool, un match crucial pour l'avenir européen du PSG. Hein, sportivement, économiquement, l'enjeu est colossal. Imaginez ce qui se passe dans la tête du patron du PSG, de l'entraîneur qui ont suivi tout ça devant leur télé. En même pas une heure, ils perdent deux stars, deux armes, deux piliers. Alors pour Mbappé, a priori, rien de trop grave. Quant à Neymar, c'est un peu plus inquiétant. Ils ont une semaine pour se rétablir et finalement, avant même Liverpool, Paris se découvre un autre adversaire, le temps qui file et qui ne joue pas en sa faveur.
Ah, Simon,
c'est le mauvais œil, il faut mettre des gris-gris, vous le dites.
C'est ça.
Non, mais c'est la jalousie, ça. Non, mais il faut tracer, il va vite se remettre sur pied. Merci beaucoup, Hélène Zélani. Merci, Simon Rubin.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Il est 7h11, tout de suite, c'est les 10 ans échos de Nicolas Barré, Nikos.
Et Carlos Ghosn, c'est le mauvais œil aussi, Nicolas Barré, vous êtes le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Vos informations exclusives ce matin pour Europe 1. Nicolas, vous connaissez par cœur le Japon, vous y avez vos antennes. Dites-nous, après le séisme, Carlos Ghosn, est-ce que l'alliance Renault-Nissan peut encore survivre?
Ah, il est clair que cette alliance est abîmée, c'est un euphémisme. Hein. D'abord, je peux témoigner que les cadres supérieurs français en poste en ce moment chez Nissan à Tokyo redoutent une chasse aux sorcières, c'est la grande peur, une japonisation de Nissan. La personnalité de Ghosn faisait oublier le fossé culturel, mais ce fossé existe. Et puis, autre signe évident de défiance, le patron de Nissan n'a à aucun moment, même pas tardivement, tenu informer Renault, son premier actionnaire à 43%, de ce qui était sur le point d'arriver à Carlos Ghosn. Ce n'est pas bon signe.
D'accord, ça veut dire quoi juridiquement? Que ça peut exploser ?
Elle peut, cette alliance, juridiquement être défaite. Oui, Renault et Nissan et Mitsubishi aussi ne sont que des entités juridiquement séparées. Mais sur un plan industriel, ça n'est pas imaginable de défaire cette alliance. D'abord parce que les partenaires en tirent des bénéfices considérables, des synergies évaluées à 5,7 milliards d'euros par an. Ensuite, parce que les deux constructeurs, au bout de près de 20 ans, ont mis en place des directions communes sur les achats, la logistique, le développement. Ils développent des véhicules en commun sur des plateformes communes, des modèles comme la Mégane, la Talisman, le Qashqai ont 70% de composants en commun. Ce sont des économies d'échelle considérables et défaire ça, ça aurait un coût financier considérable et puis surtout un impact industriel désastreux.
Oui, à un moment où l'industrie automobile justement s'est entamée une révolution.
Voilà, tous les constructeurs veulent passer à l'électrique et Renault et Nissan vont d'ailleurs lancer une plateforme commune pour l'électrique. Leur destin est donc complètement lié. Ils sont condamnés à s'entendre.
Nicolas Barré, l'édito Éco, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1. Nicolas, on vous retrouve dans le journal de 8h avec David Doucan, on vous posera une question simple. Est-ce que Carlos Ghosn a pu être victime d'une machination, voire d'un coup monté ?
Possible.
Et il est 7h13, c'est l'heure de retrouver Justin Morin-Nikos qui est sur le terrain.
J'entends du bruit là.
Ouais.
Vous êtes où ce matin, Justin ?
Vous entendez, Nikos, hein ?
Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? C'est quoi, c'est un chantier ? C'est quoi ?
Effectivement, à 9h pétante, oubliez tout ça. Ouf. Yannick Noah et l'équipe de France de tennis taperont leur première balle d'entraînement sur terre battue. Je suis sur un magnifique court au cœur du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, à deux jours de la finale de la Coupe Davis face à la Croatie. Mm-hmm. Le week-end dernier, il y avait encore de la pelouse ici. Un passage du vert au rouge, il fallait un magicien pour ça. Le monsieur terre battue de Roland-Garros, Philippe Vaillant.
C'est vrai, c'est un peu magique, hein. Le laps de temps était vraiment très court.
Oui, il vous plaît pour l'instant ce cours ?
Ah, il me plaît bien, oui.
Il me plaît bien, mais il faut 80 heures pour créer un cours de terre battue. Comment est-ce qu'on en arrive aussi vite, Justin ?
Eh bien, Philippe Vaillant m'a expliqué la manœuvre. Alors d'abord, ils ont scalpé la pelouse, puis déversé 150 tonnes de calcaire pour créer la surface, de la brique pilée, la terre battue, exactement les mêmes matériaux qu'à Roland-Garros, issus d'une carrière de l'Oise. Les lignes ont été tracées hier sur de l'huile de lin pour tenir.
Notre secret, c'est le savoir-faire. Voilà, et une passion de la matière, de le travailler. En fait, on est très peu mécanisé, hein. On travaille beaucoup manuellement avec des outils très simples, hein. Des rabots, des râteaux, des pelles. Il faut être passionné pour mettre ses mains sur ce matériau et arriver d'un tas de sable à ça, c'est beau, j'aime bien.
Vous dites, vous êtes un terrien, c'est ça ?
Oui, on s'appelle comme ça, hein, les terriens, voilà. On se plaît à s'appeler comme ça.
Des terriens, et c'est vrai qu'il faut bien ça pour une finale de Coupe du Monde de tennis, Justin.
Eh oui, mais vous le savez, Nikos, ça ne suffit pas pour faire un vrai show.
Il faut
en
des balles.
Ouais, 40 tonnes de matériel, chauffage, enceinte, lumière, des kilomètres de câbles, un écran géant. 250 techniciens travaillent ici depuis ce week-end, 24 heures sur 24. J'attends maintenant les Français qui doivent s'entraîner les premiers ici dans moins de 2 heures. Et Sébastien Hett, qui a supervisé toute l'opération, sait bien que les joueurs ne laisseront rien passer.
au-delà du terrain. Il faut que l'éclairage soit le même que celui qui sera en place vendredi. Tout l'environnement du cours doit être vraiment en configuration compétition.
Bon, mais rassurez-nous, hein, tout sera prêt pour vendredi.
Oui, j'ai pas d'inquiétude là. Enfin bon, déjà, on a le cours, dans les bureaux, on a les balles, on a les serviettes, il y a de l'éclairage, donc j'ai envie de dire que c'est l'essentiel.
On a tous les ingrédients et on n'attend plus que le public maintenant.
Et oui, moi aussi, parce que c'est vrai que tous ces sièges vides, je me dis qu'il manque quelque chose. 20 000 supporters attendus, on peut aller jusqu'à 26 000. Il reste des places pour assister à un doublé historique après la victoire contre la Serbie l'an passé. Moi, j'y crois. J'espère que vous aussi, Nikos.
Évidemment, et nos auditeurs aussi sur Europe 1. Céline Dacosta est déjà en tenue.
Allez, les Bleus.
Ouais, de Tennis Woman. Merci beaucoup. Allez, les Bleus. Merci Justin en direct du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq à deux jours de la finale de la Coupe Davis. France-Croatie, vous êtes tous ce matin, c'est notre rubrique quotidienne à 7h12 sur Europe 1.
Europe 1. Et il est 7h16, restez avec nous sur Europe 1 à suivre Nikos Aliagas.
Question existentielle, question pratique, le ticket de caisse vit-il ces dernières heures ? Écologie oblige, certains députés veulent y mettre fin, mais le combat n'est pas si simple, on vous dit tout dans Europe 1. Va plus loin, notre enquête juste après ça.
Il est 7h19, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Emmanuel Macron, le président de la République, appelle au dialogue, mais certains gilets jaunes veulent poursuivre coûte que coûte la mobilisation. Ils pourront manifester samedi à Paris, mais pas place de la Concorde. Carlos Ghosn, présenté à un juge ce matin à Tokyo, il sera ensuite placé en détention pour 10 jours. Son numéro 2 chez Renault assure l'intérim. Theresa May, attendue aujourd'hui à Bruxelles, la première ministre britannique, doit régler les derniers points en suspens pour boucler le Brexit avant le sommet spécial de dimanche.
Europe 1. Nikos Aliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin aux tickets de caisse.
Vont-ils disparaître ? En tout cas en version papier, parce qu'il existe déjà de plus en plus d'enseignes qui proposent de vous envoyer votre ticket par mail. Et d'ailleurs, une proposition de loi vient d'être faite par une trentaine de députés pour arrêter d'imprimer automatiquement le ticket de caisse. Et l'enjeu est lié à l'environnement, apparemment. Bonjour, Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Alors, ça paraît presque insignifiant un ticket de caisse, et pourtant...
Et pourtant, oui, en effet, hein, c'est un petit rouleau de papier, on pourrait voir les choses comme ça, mais quand on les prend dans leur ensemble, eh bien c'est colossal. Je vais vous donner un chiffre et vous allez comprendre. Rien que pour les magasins de l'enseigne Auchan, ce sont 110 000 kilomètres de papier imprimé chaque année. Avec ça, on fait 3 fois le tour de la Terre. Oui. Et ce bout de papier, il a une durée de vie qui n'est que de quelques secondes. Voilà ce que nous dit la députée LREM Patricia Mirales, qui est à l'origine de cette proposition de loi.
Vous allez faire des petites courses. Franchement, le ticket de caisse, vous ne le regardez pas. On pourrait démarrer par se dire que toutes les personnes qui ne le souhaitent pas, si c'est pour le jeter, elles ont le droit de dire qu'elles n'en veulent pas.
Alors ça, c'est ce que font déjà un certain magasin bio. Hein. C'est comme la Vie Claire, par exemple. À la caisse, on vous demande, est-ce que vous voulez un ticket ? Eh bien, ça marche. Sur 10 clients qui passent en caisse, 8 n'en prennent pas.
Il vous faut le ticket de caisse ou ça va aller ?
Non merci, je n'ai pas besoin du ticket de caisse.
Pourquoi vous ne prenez pas vos tickets de caisse ?
Parce que c'est quelque chose que je voudrais montrer à ma fille pour le développement durable justement. Éviter tous les papiers inutiles, parce que moi je vais le jeter à la poubelle après. J'aimerais bien que ce soit partout.
Non, on nous propose aussi, sinon, parfois à la caisse, de nous l'envoyer par mail.
Alors oui, hein, il y a quelques enseignes hein, qui le proposent, Gap, Uniqlo, Etam, Promode. On ne consomme plus de papier, mais attention, hein, ça leur permet surtout de récupérer notre adresse email pour nous envoyer des publicités. Voilà. Alors malgré tout, cette proposition, elle intéresse la secrétaire d'État Brune Poirson, qui pourrait même l'intégrer à la loi sur l'économie circulaire qui sera discutée au printemps.
Non, bon, on a le droit de se poser cette question. Est-ce que ça, c'est plus écolo d'envoyer un mail que d'imprimer un ticket de caisse, franchement ?
Alors, vous avez raison de souligner ce point. Envoyer un ticket par email, ça a aussi un impact environnemental. Frédéric Bordage, spécialiste en numérique responsable, nous explique en détail.
Un mail avec un ticket de caisse dématérialisé, c'est de l'ordre de 5 grammes de gaz à effet de serre et 3 centilitres d'eau. Le même ticket de caisse au format papier, on va plutôt être sur 2 grammes de gaz à effet de serre et 5 centilitres d'eau. Donc on a moins de gaz à effet de serre sur le ticket papier, par contre on a plus d'eau. Et inversement, sur le ticket dématérialisé, on va avoir plus de gaz à effet de serre et un petit peu moins d'eau.
Qu'est-ce qui nous dit que ça revient au même, en fait ?
Exactement. Ah oui. Alors, à peu près au même. Alors, il y a peut-être une solution. Ça, c'est ce que font déjà certains opérateurs téléphoniques. On n'imprime pas de papier. On ne nous l'envoie pas non plus par email. Mais on met votre facture à disposition sur votre compte client, sur Internet. Et c'est vous qui allez consulter si besoin. Ça règle le problème de la consommation d'eau et des gaz à effet de serre.
D'accord. Mais on dit quoi du côté de la grande distribution, des hyper ? C'est quand même eux qui impriment le plus de tickets ?
Oui. Alors, ils y réfléchissent. Hein, mais on sent qu'il y a encore quelques réticences. Il y a d'abord d'abord l'enjeu des bons de réduction, il faut continuer à pouvoir les distribuer. Et puis, il y a aussi une question matérielle. Les caisses impriment automatiquement les tickets aujourd'hui, donc il faudrait toutes les changer. Ça, ça coûte très cher.
Ben voilà.
Et enfin, il y a certaines chaînes comme Système U qui ne sont pas du tout favorables à la disparition du ticket de caisse. Ça va creuser le fossé numérique, nous dit-on. Tout le monde n'a pas encore Internet à la campagne.
Donc, le ticket de caisse est bien en voie de disparition, mais on le comprend, ça soulève encore pas mal de débats et de questions. Il faudra du temps, même pour le ticket de caisse, et pour mettre en place des solutions pour nous adapter à un monde environnemental plus clément pour l'avenir. Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20.
Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire par téléphone au 3921 ou avec le hashtag Europe 1 sur les réseaux sociaux.
Europe 1.
Il est 7h24.
À suivre l'innovation avec Anissa Mbida, c'est l'ouverture aujourd'hui des états généraux de la prévention des cancers. Et à cette occasion, on va parler de dépistage. Vous allez l'entendre, les progrès sont considérables. Bon réveil à tous sur Europe 1.
Il est 7h27.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissa Mbida, Nikos Aliagas.
Mon cher Anissa, ce matin, une bonne nouvelle dans la lutte contre le cancer. On va peut-être pouvoir détecter les tumeurs beaucoup plus tôt et les soigner plus efficacement. Expliquez-nous pourquoi et comment.
Parce que ce sont deux secteurs où la science fait d'énormes progrès ces dernières semaines. C'est tout récent. Pour vous dire, on sait désormais déterminer un type de tumeur et la façon de le combattre rien qu'avec une prise de sang. Ce qui est quand même beaucoup plus confortable, vous lui direz, que d'avoir à faire une ponction lombaire ou d'avoir à faire une biopsie, c'est-à-dire de prélever et d'analyser un bout de tissu cancéreux pour trouver la meilleure façon de le soigner. Et bien désormais, on pourra avoir les mêmes informations avec une simple prise.
Ça, c'est une petite révolution, mais est-ce que ça fonctionne pour tous les cancers?
Oui, tous les principaux, poumon, sein, pancréas, prostate. C'est une technique qui vient d'être présentée par des chercheurs de l'université de Brigham aux États-Unis. L'autre nouveauté, c'est qu'on pourrait bientôt carrément dépister cette fois les cancers, c'est-à-dire que là encore, à partir d'une simple prise de sang, on pourra savoir qu'une tumeur va arriver, mais ça 3, 5, 10 ans avant qu'elle se forme, avant que les premiers symptômes apparaissent. Alors on avait déjà découvert une première méthode qui recherchait des petits marqueurs extrêmement rares qui apparaissaient dans le sang bien avant que la tumeur soit développée. Mm-hmm. Et bien une nouvelle technique encore plus fiable vient d'être révélée dans la revue scientifique qui s'appelle Nature.
Yeah.
Donc même si on n'a pas encore trouvé ce fameux remède contre le cancer, au moins on va pouvoir l'anticiper et donc pouvoir mieux le traiter.
Et en France, le cancer le plus mortel reste le cancer du poumon. Voilà pour ces bonnes nouvelles. Merci. À suivre avec vous, Anissa Mbida, l'innovation et la vie, tous les jours sur Europe 1, 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Énergie nucléaire et renouvelable. Aujourd'hui, EDF agit pour la transition énergétique et s'engage en faveur d'une électricité bas carbone. Plus d'infos sur edf.fr.
Et dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Ça gèle, Maître Cabrol.
Ça gèle. Alors, pas mal. Ça, c'est la première information. Ce sont les températures. Il fait très froid ce matin. Moins 7 à Guéret, moins 6 à Cognac, moins 4 à Poitiers, moins 2 en banlieue parisienne, moins 1 à Paris, plus froid qu'hier, moins 1 à Lille, 0 à Brest, 3 à Clermont-Ferrand, 5 à Lyon. La bonne nouvelle, c'est que quand même, sur les régions de la moitié sud, il fera beaucoup moins froid qu'hier. Là, c'est l'inverse. Nous allons avoir un redout très léger, mais redout tout de même sur Nantes, sur Lyon, sur Vertoux avec 8 degrés, 9 à Bordeaux, 13 à Toulouse, 14 à Biarritz et 16 degrés à Marseille. Et même sur Paris, où nous n'avions que 2, nous en aurons 5. Je parle des degrés.
D'accord.
Deuxième info de la matinale. Attention à propos des orages. Des orages se déclenchent en ce moment dans le delta du Rhône. C'est un temps du gros temps. Ce sont les pluies méditerranéennes qui commencent à arriver. Elles seront là jusqu'à ce soir. Donc soyez vigilants. Les pluies, les orages dans la vallée du Rhône, dans le delta du Rhône, du côté de Marseille, de Istres, etc. Nous en reparlerons tout à l'heure.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. On vous retrouve avant le journal de 8h pour un autre point météorologique.
Nous sommes le mercredi 21 novembre. Il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal avec vous, Céline Kallmann, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Emmanuel Macron a invité ce soir à l'Elysée 2000 maires de France en marge du congrès qui a lieu porte de Versailles à Paris. Mais tous n'iront pas car ils auraient préféré que le chef de l'État tienne sa promesse, celle de venir rendre des comptes devant le congrès chaque année. Bruno Lafont, maire de Biganos en Gironde, sera présent lui car il compte bien exprimer son ras-le-bol au chef de l'État.
J'ai décidé d'y aller. Si j'ai l'occasion de m'entretenir avec lui, je lui dirai la résignation qu'ont les maires et la difficulté que nous avons aujourd'hui. Rien que pour la taxe d'habitation, nous sommes soumis à la promesse du président de la République que ça allait être compensé. Compensé comment? Je n'en sais rien. Si le président de la République respecte sa parole comme il l'a fait en disant qu'il viendrait tous les ans au congrès des maires et qu'il n'y vient pas cette année, je ne sais pas si on peut avoir confiance dans la parole.
De la difficulté de parler à un président de la République qui, lui, n'a jamais été un élu local.
Ça, nous voyons bien le décrochage, puisque quand vous êtes un élu, à un moment donné, vous êtes obligé d'être un peu plus humble.
Bruno Lafont au micro de Stéphane Place pour Europe 1. David Lisnard, maire de Cannes, sera votre invité à 7h45, oui, Nikos.
Il n'ira pas à l'Élysée, il viendra nous dire pourquoi.
Au cinquième jour de mobilisation des Gilets jaunes, un premier syndicat rejoint le mouvement. Il s'agit de FO Transport, les dirigeants de FO qui se réunissent jusqu'à demain pour élire leur nouveau secrétaire général après le départ de Pascal Pavageau.
Sur l'île de la Réunion, les forces de l'ordre ont été confrontées pour la deuxième nuit consécutive à des casseurs.
Ils se sont regroupés en marge de la mobilisation des Gilets jaunes et ont enfreint le couvre-feu instauré par le préfet. Le bilan est lourd du côté des forces de police. 16 blessés, dont un grave. Il y a eu 38 interpellations. Charles L'Huillier a recueilli le témoignage de Laurent, agent de sécurité dans une grande surface.
Le couvre-feu, ils s'en foutent. Hein. Les jeunes, ils s'en foutent. Hein. C'était des gamins de 15, 16 ans, 17 ans, pas plus que ça. Hein. Ils dansaient, là, ils faisaient la java, là, ils allumaient le feu. Là. Et ensuite, ils ont commencé à faire péter le portail là-bas. Mais le score, ils avaient prévenu, ils avaient mis des conteneurs, donc ils ont foutu le feu et tout le truc comme ça. Là, il y avait 3-4 foyers de feu là, qui flambaient. Ensuite, les gendarmes mobiles sont arrivés, et puis ça a commencé à tirer de partout dans l'immeuble. Ça a commencé en 91, comme ça s'est passé en 91, 27 ans plus tard, on oublie la même chose. Quoi.
Ces jeunes, parfois très jeunes mineurs, ouais. La présence des forces de l'ordre...
Ça ne les persuade pas, ça, au contraire, ça les excite.
De quoi?
C'est une confrontation, ça les excite plus encore. Ils veulent la confrontation directe, physique.
Avec qui?
Avec les forces de l'ordre.
Un témoignage recueilli par Charles L'Huillier de Radio Freedom, dont Europe 1 est partenaire.
Autre conséquence du mouvement Gilets jaunes, c'est une catastrophe pour la filière des clémentines corses.
Oui, la quasi-totalité de la production est envoyée sur le continent, mais depuis samedi, tous les camions sont bloqués. On parle de près de 700 tonnes de marchandises. Résultat, la cueillette est suspendue, tous les salariés sont au chômage technique. Écoutez Simon-Pierre Fazi, il est président de l'AOP Fruits de Corse.
On a tous les envois de ce week-end qui sont bloqués en fait. Comme on ne sait pas quelle sera la durée de ces blocages, on a préféré stopper la récolte parce que les fruits sont quand même mieux sur les arbres que dans les camions au bord des routes. Mais on espère que ça s'arrête et c'est sûr que la clémentine, d'ici 2-3 jours, si elle n'est pas commercialisée, sera perdue. Et là, par contre, ce sera vraiment des pertes sèches importantes. Hein. Ça nous fait peur parce que je vous dis, on est vraiment au pic de la production et c'est vraiment inquiétant. La profession est vraiment inquiète.
Simon-Pierre Fazi avec Jean-Gabriel Bourgeois. Hier, on a appris la mort d'un motard de 37 ans qui a succombé à ses blessures dans la Drôme. Il avait été accidenté en marge d'un rassemblement des Gilets jaunes. Rassemblement interdit par le gouvernement, place de la Concorde, samedi.
Europe 1, il est 7h34.
On l'a appris il y a une poignée de minutes. La garde à vue de Carlos Ghosn est prolongée de 10 jours à Tokyo, soupçonné d'avoir minimisé ses revenus au fisc japonais. Thierry Bolloré, actuel numéro 2, a été nommé par intérim pour diriger le groupe Renault.
Jawad Ben Daoud, de retour devant la justice.
Surnommé le logeur de Daesh, il avait accueilli chez lui deux des terroristes du 13 novembre 2015. Il avait été acquitté en première instance après un procès parfois qualifié de chaud Jawad. Cette fois, les victimes attendent plus de sérénité et une justice plus sévère. Arthur Desnouveaux est le président de l'association de victimes Life for Paris.
Ce qu'on redoute le plus, c'est un cirque médiatique où on en fasse un espèce d'anti-héros ou d'héros comique. C'est pas de ça dont il est question de quelqu'un qui a hébergé les terroristes et d'autres prévenus qui ont apporté leur concours à l'hébergement de terroristes. Nous, ce qu'on attend, c'est vraiment que la douleur des victimes soit pas oubliée et qu'on arrive à une forme de vérité judiciaire qui a pas du tout émergé au premier procès. Et on aimerait quand même que les faits soient vraiment établis et qu'il y ait une peine en proportion qui soit donnée.
Arthur Desnouveaux avec Chloé Triomphe.
C'est la journée mondiale de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive.
En clair, la bronchite chronique, la maladie du fumeur. L'association BPCO veut rappeler l'ampleur de cette pathologie très handicapante. 3,5 millions de personnes atteintes en France chaque année. Et ce n'est pas une maladie qui touche uniquement ceux qui fument depuis longtemps. Écoutez Christophe, 49 ans, concerné depuis une vingtaine d'années.
C'est pas une maladie de vieux, non. Ah non. Quand ça a commencé, j'avais 30 ans. Mon quotidien, c'est je peux pas travailler. Je me fatigue très vite. Bien souvent, je suis obligé de dormir avec l'oxygène. Je me déplace très lentement. Je ne peux pas porter de poids. Quand il y a une montée, ne serait-ce qu'une pente légère, je suis obligé de réduire mon pas et marcher tout doucement. Alors les marches, n'en parlons pas. On m'a dit que mes poumons avaient plus de 70 ans. À cause de l'excès de la cigarette et du cannabis. Un joint, c'est 7 cigarettes consommées. Et quand on sait que moi, j'en fumais 10, 15, 20, voire 25 par jour, on peut se dire que je me suis vraiment fait du mal. Quoi.
Aujourd'hui, vous avez tout arrêté ?
Ah oui, tout arrêté. Ça fait 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, je faisais 49 kilos, j'étais sous l'oxygène 24 heures sur 24. Si j'avais pas arrêté là, je serais pas en train de vous parler actuellement.
Un témoignage recueilli par Mélanie Gomez pour Europe 1. En football, la France a battu l'Uruguay 1-0 en match amical hier soir au Stade de France.
Merci Céline Kallmann pour le journal de 7h30.
Europe 1.
Il est 7h36.
Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Nikos.
On l'a appris ce matin, la garde à vue de Carlos Ghosn est prolongée de 10 jours. À Paris, est-il toujours fréquentable, Carlos Ghosn?
Non, ça, si vous pouvez poser la question à qui vous voulez, à tous les ministres français que vous croisez. Carlos Ghosn, ah, connais pas Carlos Ghosn, c'est pas mon copain Carlos Ghosn, ça, il a vite fait le tour de ses amis, Carlos.
Il y a quelques jours, il était avec le président du côté de Verdun.
Comme vous dites, Nikos, il y a quelques jours.
À Maubeuge, précisément. Jean-Michel Apathy sur Europe 1, tout de suite.
Il est 7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
L'affaire Carlos Ghosn. Hier soir, le conseil d'administration de Renault s'est réuni pour évoquer l'après Carlos Ghosn précisément, et une solution intérimaire a été trouvée. Fin de l'affaire, Jean-Michel Apathy, la page est tournée?
La page est tournée, en tout cas Carlos Ghosn est un peu effacé de tous les paysages. Depuis dimanche, il n'est défendu par personne. Personne n'est venu au secours de Carlos Ghosn. S'il fait le compte de ses amis, c'est simple, il en a zéro. C'est quand même incroyable. C'est très rare de voir ça, surtout que c'était l'un des patrons les plus puissants de la planète avant le début de cette histoire. Alors Carlos Ghosn, ceux qui l'ont croisé le décrivent comme autoritaire, cassant, aimant l'argent trop. Ses salaires à l'Alliance Renault-Nissan avaient effectivement quelque chose d'absolument épouvantable. Bon, très bien. Mais les défauts d'un individu en font-ils un coupable devant la justice? Non. Et puis coupable de quoi d'ailleurs? On sait encore très peu de choses. La presse japonaise livre des bribes. On verra si tout ça se vérifie. Par exemple, Carlos Ghosn aurait oublié de déclarer des produits financiers pour 40 millions d'euros au fisc japonais entre 2011 et 2015. C'est pas une paille, bien sûr. Il aurait détourné d'une certaine manière l'argent d'une filiale pour acheter des maisons ici et là. Bon, d'accord, c'est pas bien. Il aurait pris, alors là, c'est carrément du vol, 9 millions d'euros dans une enveloppe de 28 millions d'euros qui était destinée aux dirigeants de chez Nissan. Quand on regarde tout ça à plat, on se dit, voilà un homme intelligent qui n'est pas très, très sophistiqué pour la fraude. Il vole de l'argent, carrément. Ou alors il oublie de déclarer des dizaines de millions d'euros. Bien sûr qu'il va se faire attraper. Ça paraît presque comme du suicide. On est quand même très étonné de toutes ces accusations. On peut même se demander, parce que tout ça, c'est uniquement dans la partie Nissan. Bruno Le Maire a dit hier que côté fiscal, partie française, il n'y avait rien. Donc côté Nissan, ça a l'air d'être un peu le désordre. Est-ce qu'il n'y a que Carlos Ghosn qui a eu ces attitudes? Est-ce que c'est une affaire Ghosn ou est-ce que c'est une affaire Nissan? Et puis, bien sûr, on ne peut pas exclure de tout ça l'arrière-plan industriel. L'alliance Renault-Nissan est une alliance déséquilibrée parce que Nissan fabrique à peu près deux fois plus de voitures aujourd'hui que Renault et c'est pourtant Renault qui dirige. Nicolas Barré le disait tout à l'heure, le numéro 2 de Nissan a mené, il est là avec nous, a mené dans le secret le plus absolu, un audit pendant des mois, nous dit-on. Et sans jamais avertir Renault, qui est le premier actionnaire de Nissan. Il y a une volonté très agressive du numéro 2 de Nissan. Tout ça présage plutôt la fin de l'alliance, ce qui serait une très mauvaise nouvelle industrielle pour la France. Le gouvernement français, depuis dimanche, a complètement largué Carlos Ghosn. L'avenir dira si c'était une bonne attitude ou si c'était une attitude qui manquait beaucoup de clairvoyance.
Et puis Nicolas Barré, dans le journal de 8h, vous nous direz si oui ou non, on pourrait penser qu'il y a eu un coup monté contre lui.
D'ailleurs, ce qui est très révélateur, c'est que dans le communiqué publié hier soir par Renault, Renault demande ces informations, demande à avoir accès au dossier parce qu'ils n'ont aucune information.
À tout à l'heure dans le journal de 8h, Nicolas Barré. Jean-Michel Apathy tous les jours à 7h40 et Audrey Caspomara recevra à 8h15 Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. À présent, c'est vous qui le dites. Chaque matin, vous réagissez à l'actualité sur le répondeur d'Europe 1, le 3921. Et vous êtes encore nombreux à nous parler des gilets jaunes ce matin, comme David qui soutient le mouvement, mais qui est choqué par les débordements. On l'écoute.
Moi, mon petit mécontentement n'est pas par rapport aux revendications, je suis comme tout le monde, hein, le gasoil est cher, il faut manger et compagnie. Mais quand on arrive sur un blocage, et les gars, ils voient arriver un camion, ils mettent la barrière devant, et dès qu'on commence à vouloir communiquer, ouais, faut cul, et puis bon, je sais pas à quelle heure il est, je vais éviter tous les noms d'oiseaux, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment des noms, c'est craché sur le camion, enfin voilà, c'est vraiment pas cool du tout sur certains barrages, quoi.
C'est vous qui le dites tous les matins à 7h42, réagissez par téléphone au 3921 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h44, Nikos Aliagas.
Et justement, dans un instant, on va parler gilets jaunes, colère populaire, mais aussi incivilité. Un maire qui ne se rendra pas à l'Elysée, qui ne répond pas positivement à l'invitation du président de la République, c'est le maire de Cannes, David Lisnard. Il est mon invité. On vous dit tout pourquoi juste après cela. Bon.
Il est 7h45, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
La garde à vue de Carlos Ghosn, prolongée de 10 jours supplémentaires, le PDG de Renault a été arrêté lundi à Tokyo, soupçonné de malversation. Hier soir, le conseil d'administration du constructeur a désigné le numéro 2 de l'entreprise, Thierry Bolloré, pour assurer l'intérim. La manifestation des Gilets jaunes prévue samedi à Paris ne sera pas interdite, mais elle ne pourra pas se tenir sur la place de la Concorde comme l'envisageaient les organisateurs. C'est ce qu'a fait savoir hier le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Le procès en appel de Jawad Ben Daoud, le logeur des djihadistes du 13 novembre 2015, s'ouvre aujourd'hui. Il avait été relaxé en première instance. Le parquet, qui avait requis 4 ans de prison, avait immédiatement fait appel du jugement.
Nico Saliagas, vous recevez ce matin le maire de Cannes et vice-président, porte-parole également de l'Association des maires de France, David Lisnard.
Bonjour David Lisnard.
Bonjour.
Comme beaucoup de maires, vous êtes convié ce soir à l'Élysée à l'invitation d'Emmanuel Macron. Vous n'irez pas. Pourquoi ?
Non, j'avais indiqué que je n'irai pas parce que il s'agit, je pense, d'une opération de communication qui, il aurait été tellement plus simple que on travaille en amont sur un agenda de négociation, sur un agenda de discussion. On est tous attachés au redressement du pays. Et puis que le président qui s'était engagé à venir l'année dernière vienne au Congrès. Personne ne l'obligeait à s'engager. Il a décidé de ne pas venir. On aurait pu imaginer que c'était pour une raison d'agenda. Or, il s'avère qu'il est disponible puisqu'il invite au dernier moment les maires à l'Élysée. Donc j'ai pas envie, si vous voulez, d'être figurant. J'ai passé l'âge, je connais trop ça. Et ça dépasse cet exécutif. Hein. J'ai un peu d'expérience d'une opération de communication. On a des sujets importants à voir ensemble. Il faut renouer du dialogue dans la confiance et pas dans le buzz et en essayant de nous endormir pendant le congrès, là où les médias s'intéressent à ce que nous disons.
Pourquoi ne pas aller lui dire à l'Élysée aujourd'hui ?
Pourquoi ? Parce qu'on le dit depuis un certain temps. Et comme je le disais, on sait très bien que de cette réunion, il ne sortira rien hormis des déclarations d'intention. Posons la nécessité de voir comment on adapte le pays, comment on modernise le pays, comment on sauve les communes qui sont vraiment l'échelon de proximité, de pertinence, qui sont, vous savez, les maires tous les jours, ils recousent le tissu social. On est au contact de réalités extrêmement contrastées. Mmh. C'est un des rares espaces où on a encore une démocratie qui s'exprime au quotidien. Et aujourd'hui, on sent bien depuis longtemps. Hein, c'est pas au discrédit de seul pouvoir. Hein, il faut être honnête intellectuellement.
Vous êtes aux premières loges, en fait, c'est ça. Le maire est aux premières loges.
Le maire, c'est la société civile. Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, c'est la société civile qui s'exprime, qui est élu. On a un mandat, on rend des comptes, on est sanctionné ou on est encouragé. C'est extrêmement simple et c'est extrêmement performant. Pourquoi ? Parce que la proximité, elle crée la responsabilité. Et que la responsabilité, elle crée la performance. Mais pour qu'il y ait responsabilité, il faut qu'il y ait liberté. C'est cette liberté d'action des communes qui est mise en cause. Et je pense que c'est extrêmement grave.
Hier, on parlait dans nos éditions sur Europe 1, justement, du coup de blues des maires qui doutent. Certains veulent jeter l'éponge, d'autres veulent retrouver leur métier. Que la réalité est bien plus difficile qu'on ne le croit et qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens pour agir. C'est votre cas à Cannes ?
La réalité, elle est difficile, mais elle est passionnante. Enfin, c'est un mandat extraordinaire. Moi, j'ai pas voulu aller sur d'autres mandats à des moments où j'aurais pu le faire. Mais effectivement, le fait qu'on ait les ressources financières qui soient amputées, le fait qu'on gère une mairie comme une entreprise, sauf qu'on distribue l'intérêt général. Moi, je baisse les dépenses, j'ai baissé la dette de 51 millions d'euros avec mon équipe en 4 ans, sans toucher au taux d'impôt, et que parallèlement, on soit face à des injonctions contradictoires. Regardez la loi de programmation des finances publiques sur les 5 prochaines années. Les collectivités vont baisser c'est l'endettement de 50 milliards d'euros. Mmh. En sachant qu'elles n'empruntent que pour l'investissement. Comme dans une entreprise, on ne peut pas emprunter pour du fonctionnement. Alors que l'État, lui, emprunte pour son fonctionnement. Si nous, on fait ça, c'est du pénal. Mmh. Comme une entreprise. Et bien, pendant ce que nous, on va baisser la dette de 50 milliards, c'est ce qu'on nous demande, on va le faire. L'État va augmenter la dette de l'État de 330 milliards. Alors, tout à l'heure, vous aurez le ministre des Comptes Publics, pour qui j'ai du respect personnel, qui va vous dire qu'on ment, Gérald que ce n'est pas vrai, que l'enveloppe normée a augmenté 80 millions. Mais la réalité, elle est pas là. Et on le voit bien qu'on a des surprélèvements de l'État. On nous avait annoncé l'année dernière, le président de la République, au Congrès des maires, que 99% des communes, ce sont ces termes, verraient leurs recettes préservées en relation avec l'État. C'est faux. Les deux tiers des communes ont eu en 2018 une baisse de leur dotation. Et il y a bien d'autres phénomènes qu'on ne voit pas.
David Lisnard, vous venez de publier un livre coécrit avec Jean-Michel Arnaud, le vice-président de Publicis Consultant. Ça s'appelle « Pour en finir avec l'incivisme ». L'incivisme, c'est la grande cause de votre mandat dans votre ville à Cannes. C'est quoi ? C'est la cohésion sociale qui est en jeu ?
Oui, je crois que d'abord les incivilités coûtent cher au compte public. Regardez les dégradations de mobilier urbain, les réparations, le nettoiement, tout ce que cela implique. Ensuite, elle dégrade le cadre de vie, l'attractivité des territoires, mais surtout elle révèle une une sorte d'individualisme consumériste des espaces publics qui lui-même traduit une perte de sens, une perte de lien. Et je pense qu'on est vraiment dans une, je le disais récemment, dans une crise majeure de la démocratie actuellement, parce qu'il y a un dialogue de sourds entre citoyens qui se comportent trop souvent en consommateurs, élites qui ne sont pas à l'écoute. Et aujourd'hui, l'incivisme traduit un affaiblissement de notre société.
Mais il y a des incivilités à Cannes. On tague à Cannes sur les murs de
Cannes. Bien sûr. Pourquoi y aurait-il pas d'incivilité à Cannes? Qu'est-ce que traduit cette question en a priori?
C'est juste qu'on a l'impression que la croisette est plus protégée, que
d'abord,
la vitrine est... Alors Cannes, c'est pas seulement la croisette.
Les incivilités touchent toutes les catégories de population. Il est rare de voir un jeune avec une casquette faire une crotte de chien sur Yorkshire.
Oui,
il est rare de voir une personne âgée taguer un mur. Cannes est une ville très contrastée. On a une forte jeunesse. On a aussi des moins de 20 ans très représentés, des plus de 60 ans. Donc on a toutes les formes d'incivilité, comme toutes les villes, comme le monde entier. Et la difficulté, c'est de recréer du lien, de recréer du sens. Il faut réprimer les incivilités, parce que ce sont des infractions, je parle des incivilités infractionnelles, hein, pas de l'impolitesse, des infractions, mais il faut aussi recréer du sens, recréer du lien, recréer de l'ancrage. C'est pour ça que la commune, c'est important. La commune, c'est une communauté d'expérience, comme dirait le philosophe Pierre Manant.
Vous citez les philosophes, vous citez Tocqueville aussi sur Twitter, vous avez écrit hier, les institutions communales mettent la liberté à la portée des peuples. Vous disiez que cette liberté est attaquée.
Oui, absolument.
En un mot, pourquoi?
Pourquoi? Parce que lorsque l'on remet en cause la capacité de lever l'impôt, en nationalisant la taxe d'habitation, que l'État ne sera pas remboursé au-delà de 3 ans, 22 milliards d'euros, l'État surendetté, surfiscalisé, nationalise cette ressource. Donc, vous savez, c'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que l'on doit pouvoir décider de son impôt. Et c'est tout le problème actuel, hein, du ras-le-bol fiscal. On doit rendre des comptes. Moi, en tant que maire, j'ai fait de la sobriété fiscale un engagement. Si demain, j'ai plus cette capacité, sur quoi je rends des comptes? Si j'ai plus le levier fiscal, si je n'ai plus la capacité de construire un projet dans la durée, on n'a pas de visibilité aujourd'hui. On manque de liberté. Le malaise des maires, il vient souvent de là. On veut être responsable. On veut qu'on nous laisse travailler. On veut rendre des comptes. On veut être contrôlé, mais être libre d'agir dans l'intérêt commun.
Avoir la liberté pour agir au quotidien sur le terrain. Merci David Lisnard.
Merci
d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Cannes, vice-président de l'Association des maires de France et que vous publiez un livre coécrit avec Jean-Michel Arnaud intitulé « Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme » aux éditions Hermant.
Europe 1. Il est 7h53.
À suivre le Zoom Echo, une banque française qui doit rendre des comptes à la justice américaine. Comment est-ce possible? Explication dans quelques instants avec Axel de Tarlé.
Il est 7h56, l'heure du Zoom Echo. Nico Seliagas avec Axel de Tarlé.
La justice américaine attaque la Société Générale. La banque française doit payer plus $1 milliard pour éviter un procès.
Oui, et c'est exactement la même histoire qu'avec BNP Paribas. Souvenez-vous, il y a 4 ans, la banque française avait dû payer une amende de $9 milliards pour avoir utilisé la monnaie américaine, le dollar, dans des pays frappés sous embargo américain. Alors en l'occurrence, c'était Iran, Cuba et Soudan. Et bien là, c'est la même chose avec Cuba. Alors sauf que la Société Générale préfère payer pour éviter un procès. Mais le message est clair. Voilà ce qui attend les Européens qui songeraient à faire du commerce avec l'Iran. La justice américaine ira vous chercher pour vous punir. Et nous sommes impuissants.
Mais pourquoi ne pas utiliser l'euro, par exemple, pour faire du commerce avec l'Iran ou Cuba, comme vous dites?
Alors ça, c'est la grande question. Et c'est exactement ce que dit Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui enrage de voir que même quand Air France, par exemple, achète des avions Airbus fabriqués à Toulouse, donc tout est français, tout est européen, ouais, eh bien, on utilise le dollar et pas l'euro. Pourquoi? Eh bien parce que le dollar est la monnaie de référence mondiale qui sert à fixer la valeur du pétrole, la valeur du soja, la valeur des avions. Mais justement, c'est vrai, les choses pourraient bien changer, car le dollar, qui était vu jusqu'à présent comme un bien commun au service de tous, est de plus en plus perçu, on le voit, comme un outil américain au service des intérêts américains pour imposer leurs lois partout dans le monde. Et donc, il y a une volonté, surtout d'ailleurs en Russie et en Chine, mais aussi en Europe, une volonté de passer par d'autres monnaies. On parle de la dédollarisation de l'économie mondiale. Alors, ce sera long, mais avec leur attitude de cow-boy, les Américains ont allumé la mèche qui pourrait marquer à terme la fin du roi dollar dans les transactions mondiales et la montée en puissance d'autres monnaies. On pense au yuan chinois, bien sûr, et surtout à l'euro, notre monnaie.
Le Zoom Echo, quotidiennement, l'analyse d'Axel de Tarlé sur Europe.
Il est 7h58, l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Avec Jean-Philippe Ballas, et ce matin, vous nous dites, Jean-Philippe, que les Finlandais ont beaucoup d'humour
et beaucoup de râteaux. J'ai pas tout compris dans le lancement, mais expliquez-moi.
Vous allez comprendre. Des Finlandais d'abord interloqués en découvrant que Donald Trump en personne les cite en exemple dans la prévention des feux de forêt. Oui, du côté d'Helsinki, les gens passent beaucoup de temps à ratisser, à nettoyer le sol, et c'est efficace, même que c'est le président finlandais qui lui a dit. Sauf que le président finlandais n'a pas souvenir d'une telle discussion avec son homologue américain. Certes, ils ont bien parlé de la forêt ultra présente en Finlande et d'un bon système d'alerte contre les incendies, mais pas spécifiquement de ratissage à grande échelle. Qu'à cela ne tienne, les Finlandais ont décidé de prendre Donald Trump au mot et de sortir leur râteau. Et c'est ainsi que depuis quelques jours, on voit sur les réseaux sociaux une flopée de photos de Finlandais qui posent fièrement avec leur râteau. Il y a même des chorégraphies dans la forêt avec des râteaux, des vidéos d'explications sur le bon usage des râteaux. Oui, nous ratissons en moyenne 2 heures par jour, explique sérieusement un Finlandais. Tandis que d'autres modernisent un peu le concept en sortant leur aspirateur dans les sous-bois avec des légendes du type « juste une journée classique en Finlande ». Blague à part, cela en dit long sur la façon dont est perçue parfois la vieille Europe vue d'Amérique. Pendant que les Shadocks pompaient, eh bien les Finlandais ratissaient. Vous savez quoi, j'ai même trouvé un nouvel hymne national pour la Finlande. Il est signé Benabar.
Il y a le râteau héroïque qui se ramasse en public. Le râteau quoi sur les i, t'es lourd maintenant, ça suffit.
Jean-Philippe Ballas, l'homme qui ne connaît pas les râteaux. J'ai posé le jour juste avant 8h sur Europe 1. Merci.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Le gel, le froid, et oui, l'hiver.
Et couvrez-vous avec élégance si vous ne voulez pas prendre un râteau.
C'est bon, bien.
En ce qui concerne le temps froid, il est là sur une grande partie de la France, avec des températures ce matin de moins 7 à plus 3 degrés. Vous voyez que la tranche est vraiment très basse, la fourchette est très basse, et dans l'après-midi, ça va monter. 5 à Paris et Strasbourg, 6 à Lille, 7 à Caen, 8 à Lyon, 9 à Bordeaux, 13 à Toulouse, 14 à Biarritz et 16 à Marseille. Donc les températures remontent sérieusement dans l'après-midi. Le beau temps revient par l'ouest, c'est-à-dire par l'Atlantique et par la Manche. Mais attention, nous avons encore beaucoup de pluie, j'y reviendrai, sur le delta du Rhône. Ces pluies sont orageuses sur toute la côte méditerranéenne et les petites pluies remontent le long de la vallée du Rhône jusqu'à Lyon.
Merci Lolo Cabrol, à tout à l'heure.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous accompagner en ce mercredi 21 novembre. Il est 8h, excellent réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
Carlos Ghosn est-il tombé dans un piège? C'est ce qu'avance le Financial Times. Selon le journal britannique, il préparait une fusion entre Renault et Nissan, un projet qui lui valait beaucoup d'ennemis. Quelle réponse apporter aux gilets jaunes? La majorité présidentielle se divise sur le sujet. Reportage dans un instant. Quant aux dorures de l'Elysée, elles ne suffiront pas à amadouer les maires de France. Emmanuel Macron en reçoit 1500 ce soir en son palais, des invités de très mauvaise humeur.
Europe 1.
C'est un article du Financial Times qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas depuis 48 heures. Nos confrères britanniques affirment que Carlos Ghosn s'apprêtait à mettre en place une fusion irréversible entre Renault et Nissan, un projet qui hérissait le poil des dirigeants japonais. Alors Nicolas Barré, question, Carlos Ghosn a-t-il été piégé?
C'est une hypothèse tout à fait sérieuse en effet. Pourquoi? Parce que Carlos Ghosn, depuis longtemps, avait le projet de rendre l'alliance irréversible. Il savait que la situation actuelle n'était pas tenable, il fallait figer les choses. Cela devait passer par une fusion en bonne et due forme. Le Financial Times écrit en effet ce matin qu'elle était sur le point d'aboutir dans les mois à venir, mais que les Japonais au plus haut niveau chez Nissan n'en voulaient pas. En fait, il y avait un camp chez Nissan qui cherchait par tous les moyens à faire échouer le plan de Ghosn, plan qui aurait donné à Renault une fois pour toutes des pouvoirs plus importants. Ce projet de fusion irritait au plus haut point le directeur général de Nissan, Saikawa. Il avait sidéré tout le monde il y a quelques mois en disant publiquement qu'il ne voulait pas de fusion. Carlos Ghosn écarté, les Japonais espèrent que le projet l'est aussi. Le bras de fer n'est pas terminé.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.
Alors cela expliquerait peut-être aussi la prudence du conseil d'administration de Renault.
Oui, le conseil a en effet hier soir décidé de maintenir Carlos Ghosn dans ses fonctions de PDG en précisant qu'il était, je cite, temporairement empêché. C'est son bras droit, Thierry Bolloré, qui a été nommé directeur exécutif par intérim. Pendant ce temps-là, à Tokyo, Carlos Ghosn est toujours détenu par la police qui vient d'annoncer une prolongation de sa garde à vue pour au moins 10 jours. Rejoignons tout de suite notre correspondant sur place, Régis Arnaud. Alors Régis, les conditions de détention n'ont rien à voir avec ce que l'on peut connaître en France. Et où est précisément, à l'heure où l'on se parle, Carlos Ghosn ?
Alors Carlos Ghosn est actuellement en garde à vue au centre de détention de Kosuge à Tokyo. Pendant 20 jours, il est dans une espèce de tunnel, seul dans une pièce. Il a très très peu de droits, il n'est pas assisté par son avocat pendant les interrogatoires, mais le juge pourrait accorder qu'il voit un de ses proches, et dans ce cas, il peut le voir jusqu'à 15 minutes maximum, et il doit s'exprimer avec ce proche devant un garde en japonais, ou alors à l'aide d'un interprète, mais dans des conditions difficiles, afin que le garde comprenne tout ce que ces deux personnes se disent. Le but de cette garde à vue, c'est de l'avoir sous contrôle pendant une période extraordinairement longue, dans des conditions très difficiles, très pénibles, de lui faire perdre tout repère et tout recours vis-à-vis de l'extérieur, pour lui extorquer tout ce qu'ils peuvent avant de le transmettre au juge.
Merci à vous, Régis Arnaud, pour ces précisions.
Et David, c'est une cinquième journée de mobilisation qui commence pour les Gilets jaunes.
Oui, et le bilan des quatre précédentes est très lourd. 2 morts, plus de 500 blessés. Le gouvernement a d'ailleurs durci la réponse. Une vingtaine de sites ont été débloqués hier par les forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que samedi prochain, les manifestants n'auraient pas le droit d'approcher la place de la Concorde. Mais dans le même temps, le président de la République, lui, a prôné le dialogue. Y aurait-il deux discours parallèles face à cette crise? La majorité présidentielle est en réalité divisée. Comme le démontre ce reportage à l'Assemblée nationale signé Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Comme s'il y avait autant de solutions que de députés marcheurs face aux gilets jaunes, impossible de renoncer, assure Olivia Grégoire. Pour la députée de Paris, une seule option.
Expliquer. Voilà. Je pense sincèrement que modifier ou changer de cap aujourd'hui serait nous condamner.
Expliquer sans rien changer, mauvais calcul pour le député de l'Hérault, Patrick Vignal.
Je veux bien qu'on dise, qu'on écoute et qu'on entend, mais on ne peut pas dire en politique, change pas de cap. On a un vrai débat aujourd'hui entre la France des ronds-points et la France des avenues. Elles sont dos à dos. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas que, dans les mois qui arrivent, les citoyens soient face à face.
Pour l'heure, personne ne se risque à esquisser de nouvelles mesures concrètes. Il en faudra pourtant, estime Mathieu Orphelin, élu dans le Maine-et-Loire, comme il faudra du dialogue.
Je suis sûr qu'on va trouver le meilleur moyen de dialoguer tous ensemble avec les syndicats qui sont demandeurs, avec les assos de consommateurs, avec les élus locaux. Je suis sûr que le gouvernement va se mettre sur cette voie-là.
Cela passera peut-être par ce qu'Édouard Philippe appelle des discussions territorialisées. Alors pas plus d'explications sur ce terme pour l'heure. Ce n'est pas encore assez mûr, dit-on, dans l'entourage du Premier ministre.
Reportage signé Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et sur le terrain, en marge du mouvement des Gilets jaunes, des violences urbaines sont à déplorer depuis 5 jours sur l'île de la Réunion. Le couvre-feu avait été déclaré. Il n'a pas été respecté cette nuit. Dans au moins 2 communes, une cinquantaine de jeunes a affronté les forces de l'ordre. On dénombre 16 blessés parmi les policiers, dont un grave. 38 personnes ont été interpellées.
Si Emmanuel Macron pensait pouvoir avoir une soirée tranquille à l'heure du dîner, ben ça a raté.
Oui, parce qu'il reçoit ce soir à l'Élysée 1500 maires de France, des édiles qui ont beaucoup de reproches à lui formuler. Et ce qui n'arrange rien, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas tenu parole. Il avait promis de se rendre porte de Versailles devant le Congrès pour leur parler. Et ce détail, de nombreux élus n'arrivent pas à le digérer, comme par exemple Constantin Rodriguez, maire de Chanvoux dans la Nièvre.
Il aurait pu y avoir des échanges avec la salle. C'est ça la démocratie aussi. On se sent humilié par ce gouvernement qui est un gouvernement de technocrates et qui n'écoute pas la base, les élus de terrain qui, eux, connaissent bien la population.
Constantin Rodriguez, maire de Chanvoux, au micro européen d'Aurélie Herbemont.
Et sur tous ces sujets de l'actualité, nous entendrons à 8h15 Gérald Darmanin, le ministre du Budget, invité d'Audrey Crespo-Mara.
Peut-être commentera-t-il aussi la chronique judiciaire de la campagne présidentielle de 2017, puisque La République En Marche fait l'objet d'une enquête préliminaire sur ses comptes de campagne. Le parquet de Paris s'intéresse à 144 000 euros de dons reçus en 2017. Certains contributeurs ont-ils dépassé le plafond légal de 7 500 euros? C'est la question que se posent les enquêteurs. Et puis, cette information Europe 1, les bureaux de tabac vont être autorisés à partir du 1er janvier à vendre des bitcoins. Tiens. La fameuse monnaie virtuelle. C'est le
controversé.
Fruit. Controversé, merci. C'est vrai. C'est le fruit d'un accord entre la Fédération des buralistes et la Banque de France. Tous les détails sur cette information sur Europe 1.fr.
Europe 1.
À suivre dans le journal, la dernière bataille de Theresa May. Elle est aujourd'hui à Bruxelles. Elle a encore des choses à négocier. Vous l'entendrez dans un instant. À tout de suite.
Il est 8h09. Votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec vous, David Doucan et Theresa May, qui est aujourd'hui à Bruxelles.
Oui, et la première ministre britannique veut arracher quelques concessions de dernière minute. Mais en face, les pays européens ne veulent rien lâcher ou presque. Rejoignons notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Cette dernière bataille, Isabelle, se focalise sur une question en particulier, c'est celle de la pêche.
Et oui, car aujourd'hui, une bonne partie des poissons que nous mangeons sont en réalité british. Les prises dans les eaux territoriales britanniques, c'est 40% de la pêche européenne. De la Bretagne au Pas-de-Calais, les pêcheurs mettent le cap vers la mer du Nord ou vers la mer Celtique. Or, avec le Brexit, Londres va sortir de la politique commune de la pêche. Le Royaume-Uni va récupérer le contrôle exclusif de ces zones de pêche, d'où la très grande inquiétude de la filière hexagonale. En coulisses, la France bataille ferme. L'objectif, c'est encore d'arracher d'ici dimanche des garanties, des droits pour les pêcheurs après le divorce. Car dimanche, c'est le sommet des 28 dirigeants européens et il va graver dans le marbre l'accord de divorce et aussi les grandes lignes de la future relation avec Londres. Mais Theresa May ne se laisse pas faire. Elle doit pouvoir montrer, elle aussi, qu'elle a gagné sur quelques points. Sur la pêche, la négociation est toujours en cours. Les Britanniques s'accrochent, reconnaissait hier soir une source française.
Merci à vous Isabelle Horry, vous étiez en direct de Bruxelles pour Europe 1.
Nous allons maintenant parler du quotidien de nos aînés. On apprend que les seniors sont de plus en plus nombreux à continuer de travailler après 65 ans, David.
Oui, c'est une étude de l'INSEE qui le révèle. Ils sont trois fois plus nombreux qu'il y a 10 ans à rester actifs après cet âge. Toutes les précisions avec Olivier Samin.
3% des seniors de 65 ans ou plus continuent à travailler. Ça peut vous sembler marginal, oui, mais il faut savoir que c'est trois fois plus qu'il y a 10 ans. Et cette progression s'observe surtout chez les, entre guillemets, jeunes seniors, ceux qui ont entre 65 et 69 ans. Près de 7% d'entre eux continuent à travailler. Derrière ces chiffres, il y a des réalités très différentes. Laurence Rioux, qui a piloté l'étude à l'INSEE, distingue deux profils dominants.
D'un côté, surtout des femmes, à faible revenu, travaillant à temps partiel, dans les secteurs de l'aide sociale ou du travail domestique. Elles sont plus souvent immigrées et vivent plus souvent seules.
En clair, des personnes qui ont eu un parcours heurté et qui courent après les trimestres pour, le moment venu, toucher une retraite à peu près décente. L'autre profil dominant, lui, est complètement à l'opposé.
Il s'agit de personnes avec un haut niveau de diplôme, occupant des emplois très qualifiés. Donc ce sont des médecins, des avocats, des professions libérales, des enseignants du supérieur. Et on constate que 3 sur 4 sont des hommes.
Parfois, ce sont des seniors qui n'ont pas encore liquidé leur retraite. Mais le plus souvent, dans 7 cas sur 10, ce sont des personnes qui ont recommencé à travailler après avoir pris leur retraite.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et concluons ce journal avec un fiasco, celui de Laurie Neal. Hier soir à Bercy, l'ancienne chanteuse des Fugees est arrivée avec plus de 2h30 de retard.
On ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi, ouais. Mais en tout cas ce qu'on sait c'est que le public l'a copieusement sifflée. Elle n'a ensuite chanté que 40 minutes parce que son micro a été brutalement coupé. La salle devait fermer avant minuit. Laurie Neal doit assurer ce soir une deuxième date à Bercy. Espérons que cela se passe mieux cette fois-ci.
Sinon Céline Dacosta, vous étiez hier au concert.
J'y étais hier, je souhaitais effectivement bon courage à ceux qui vont y aller ce soir.
Vous n'irez pas vous ce soir?
Ah non, sans façon, je vous remercie.
Vous auriez dû monter sur scène,
une
prendre
fois
le relais. Pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Mais parce qu'ils ont coupé les micros, figurez-vous, il fallait partir.
C'était le journal de 8h présenté par David Doucan.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et les 8h12, coup d'œil maintenant à l'international avec Vincent Hervouet, Nikos.
Et le président américain Donald Trump qui reste fidèle aux Saoudiens malgré l'affaire Khashoggi.
Alors c'est une tradition depuis Abraham Lincoln, devant les caméras depuis Kennedy. Pour Thanksgiving, le président américain sauve deux dindes du couteau du boucher. Et hier, Donald Trump a épargné les deux volatiles. Et puis il a aussi gracié Mohamed Ben Salman. Alors au folklore américain, le président a ajouté la danse du ventre. Il se pourrait très bien que le prince ait été au courant pour Khashoggi, peut-être pas, a-t-il dit. Alors on connaît les conclusions de la CIA qui les a présentées vendredi à la commission du renseignement du Congrès. Elle confirme que l'opposant saoudien a été éliminé sur ordre du prince héritier. Contraint d'en tirer les conséquences, Donald Trump a gagné du temps. Samedi, il a reçu la directrice de l'agence. Dimanche, il a annoncé qu'il attendait un rapport complet dans les 48 heures. Et puis mardi, enfin, avant de filer pour les fêtes en Floride, il a conclu, faussement désolé, peut-être que nous ne connaîtrons jamais tous les faits entourant ce meurtre. En matière de déni, le Donald est champion du monde. Prêt à traiter le renseignement de sa propre agence de renseignement comme une rumeur, la CIA kiff le téléphone arabe. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Non mais sérieusement, on n'a jamais vu autant de documents autour de ce crime d'État. Tout le monde avait enregistré, enfin les Turcs, c'est ça.
Les Turcs ont fourni les enregistrements sonores du meurtre, les photos et les noms des assassins. Riyad a embastillé les sous-fifres, 18 têtes prêtes à tomber. Et comme les Américains écoutent aux portes, ils ont aussi enregistré enregistré un coup de fil de Jamal Khashoggi et de l'ambassadeur saoudien à Washington. C'est le frère de MBS. Il rassure le journaliste en disgrâce, l'encourage à se rendre au consulat d'Istanbul. Son Excellence n'a qu'une morale, la raison d'État. Et l'État, c'est son frère, c'est accablant. C'était écrit, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Et bien d'abord que Donald Trump excelle à jouer les imbéciles, que l'alliance avec l'Arabie est stratégique, que le roi Salman ne lâchera jamais son fils préféré et que l'Américain s'y résigne, prêt à en tirer profit. Allemands et Français sont convaincus du contraire et que les jours du prince sont comptés.
Je voudrais quand même vous féliciter, Vincent Herouet. Au-delà de cette analyse éditoriale sur l'actualité internationale, vous avez commencé votre chronique alors que votre casque audio s'est brisé,
oui,
faisant tomber un verre rempli d'eau sur la table. Mais vous êtes resté concentré et vous êtes allé jusqu'au bout de votre papier, comme on dit dans notre jargon journalistique.
Merci, Néos.
Bravo,
merci,
Vincent Herouet. Quel aventurier ce matin sur Europe 1.
Europe 1. Il est 8h15.
Restez avec nous. Elle a le casque vissé sur la tête. Audrey Crespo-Mara.
Il y a plein d'eau partout.
Il y a de l'eau partout. Vous recevez quel ministre ce matin, ma chère Audrey?
Eh bien, écoutez, il est le ministre des Comptes Publics. Autant dire que si quelqu'un est visé par les Gilets jaunes et par les maires, c'est bien lui. Gérald Darmanin sera mon invité.
A tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h19. Nico Seliagas.
Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, et votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour, Gérald Darmanin.
Bonjour.
Il y a moins d'une semaine, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux promettait que l'ensemble des taxes sur les carburants seraient investies dans la transition écologique. On vient d'apprendre que 577 millions d'euros prévus au budget de l'écologie seraient finalement consacrés à d'autres dépenses. Pourquoi avoir menti ?
Non, c'est pas du tout un mensonge.
En revanche, dire l'inverse de la vérité ?
Non, c'est pas un mensonge. Il faut peut-être se renseigner auparavant. Il s'agit, pour le coup,
l'ensemble des taxes, hein,
d'un aspect totalement démagogique. Qu'est-ce qui se passe cette année ? Puisque là, nous parlons du constat de l'année 2018. Il y a 500 millions d'euros qui n'a pas été dépensé, pas versé aux opérateurs parce que le prix de l'électricité n'est pas au niveau auquel le gouvernement le pensait, du fait notamment de l'augmentation du prix du baril de pétrole. C'est un petit peu technique. Et donc nous reversons, puisque nous sommes en fin d'année, non pas aux opérateurs, ce qui n'aurait pas de sens. Nous utiliserions mal l'argent des Français, mais au budget général.
Et pourquoi pas à la transition écologique?
Mais le budget général, il fait de la transition écologique. Moi, je voudrais avoir un petit mot ce matin, quand même, pour essayer de sortir collectivement. Et je pense que chacun y a sa part de difficultés, et moi-même, peut-être dans la manque d'explication. À quoi sert l'impôt? L'impôt, il sert à payer des écoles, à faire fonctionner l'armée, à payer des hôpitaux et aussi à faire la transition écologique.
Mais quand on dit on augmente le prix du carburant, ça va à la transition écologique et que les Français se rendent compte que finalement ça va au budget général, que ça va pour remplir les caisses de l'État.
D'abord, ce n'est pas mal que ça aille au budget général. Encore une fois, avec l'argent, l'État ne joue pas en bourse.
Mais vous m'entendez, la transition écologique n'a-t-elle pas bon dos quelque part ?
Oui, mais je pense qu'il faut sortir du réflexe pour rentrer un tout petit peu, si vous me le permettez, dans la réflexion. Il y a 340 milliards d'euros de crédit, notamment pour l'État. L'argent du budget général, ce n'est pas de l'argent sur lequel on joue en bourse, on paye des écoles, on paye des hôpitaux, on paye des routes, on paye les militaires, on paye les gendarmes, on paye la justice. Et bien sûr que l'intégralité aujourd'hui, Benjamin Griveaux n'a pas menti, bien évidemment. 34 milliards d'euros, c'est grosso modo les recettes que nous recevons de la fiscalité autour de l'écologie, de l'essence, du diesel, du carbone. Et le montant aujourd'hui que nous dépensons, nous l'État, c'est-à-dire nous les citoyens français qui payons des impôts pour l'écologie, c'est bien 34 milliards d'euros. Je crois que ce qui est très important, c'est de voir pourquoi il y a l'impôt en France. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait trop d'impôts en France.
Alors justement, les Gilets jaunes expriment un ras-le-bol fiscal. Et vous dites, ce ras-le-bol fiscal, il est le fruit d'un héritage. Vous voulez dire que les Gilets jaunes doivent s'en prendre à François Hollande, par exemple?
Bon, d'abord, nous avons tous beaucoup péché, je me mets dedans, même si je suis un jeune ministre, depuis au moins 40 ans. Ça fait 40 ans que le pays présente des budgets en déséquilibre. Ça fait 40 ans que la dette augmente. C'est quoi la dette? C'est l'impôt pour les enfants et les petits-enfants de demain. Il y a beaucoup de gens peut-être qui manifeste aujourd'hui, qui n'était pas né comme moi il y a 35 ou 40 ans, lorsqu'on a commencé à présenter ces budgets en déséquilibre. Et puis effectivement, notamment sous le quinquennat précédent, il y a eu beaucoup d'impôts supplémentaires.
Emmanuel Macron était ministre de l'économie.
Le ras-le-bol fiscal, c'est un mot qui vient de M. Moscovici, la première année du mandat de François Hollande. Mais je pense que la majorité, La République En Marche, elle doit être humble. Le gouvernement doit être humble. S'il a été élu, s'il a été nommé ce gouvernement, et j'en fais partie, c'est parce qu'il y avait une rupture avec les Français qui fait que Mme Le Pen a fait 11 millions de voix.
Et qui passe par ce ras-le-bol
fiscal. Mais les oppositions,
fiscal.
Oui, bien sûr, en partie. Mais les oppositions doivent être aussi responsables. Moi, quand je vois
qu'hier... Elles ne le sont pas.
Non, je crois que nous pouvons gagner en humilité pour la majorité. Gérard Collomb nous avait invités il y a quelques semaines. Et les oppositions peuvent gagner en responsabilité. Quand je vois que les Républicains aujourd'hui... Hier pose une question à l'Assemblée nationale, 2 minutes sur ce qu'ils appellent le ras-le-bol fiscal, après y avoir beaucoup contribué, sans un mot pour la personne qui est décédée. Nous savons désormais qu'il y a eu 2 morts dans cette manifestation, qu'il y a 10 blessés graves, quasiment 500 blessés. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter quelques instants pour se dire quand même que notre pays effectivement connaît des violences très fortes, que notre pays ça ne peut pas être l'anarchie, et qu'on peut avoir quelques minutes de réflexion politique collective pour sortir le pays de l'ornière et pas profiter de souffler sur les braises.
Alors pardonnez-moi de revenir à ce ras-le-bol fiscal. Vous dites, on est les premiers à baisser les impôts. Le problème, c'est que peut-être que la seule baisse qui a été visible, ce fut celle de l'ISF. Est-ce que baisser l'ISF, c'était vraiment la chose à faire en priorité? Est-ce que c'est pas le péché originel du macronisme?
Non, c'est pas.
C'est ce que les gens retiennent aujourd'hui.
D'abord, si vous avez compris vous-même que les Gilets jaunes demandaient tous moins d'impôts et tous la suppression de l'ISF, alors vous êtes bien plus forte, me semble-t-il, que la plupart des hommes politiques, ce qui est possible.
Mais vous l'entendez, c'est pourquoi on a supprimé l'ISF pour les plus riches et on nous taxe nous. Vous entendez bien puisque vous dites entendre la colère.
Le mouvement des Gilets jaunes, il est parfois aussi contradictoire avec des gens qui demandent moins de taxes et plus de services publics. On ne peut pas faire à la fois plus de dépenses et moins de recettes. Mais pour ce qui est notamment de l'impôt sur la fortune, voilà, ça fait 40 ans que la France essaye des formules qui ne marchent pas. Et vous savez, pour qu'il y ait plus de pouvoir d'achat, c'est pas très compliqué. Il faut qu'il y ait plus de croissance. Il faut que les entreprises puissent embaucher. Il faut que les gens puissent acheter dans les supermarchés ou commander effectivement dans notre industrie. Et pour que les entreprises puissent créer cette richesse, pour que ce soit pas ni les Japonais, ni les Chinois, ni les Américains qui le font, il faut donner la possibilité au capital français de bien fonctionner. Et entre les 35 heures et l'ISF, avouons que tous ensemble, les lumières que nous avons données au capitalisme français ont été très négatives. Donc si on veut augmenter le pouvoir d'achat des Français, il faut que les entreprises puissent vivre normalement. Et il faut baisser à la fois l'impôt des entreprises pour l'emploi et à la fois l'impôt des ménages, ce que nous faisons avec la taxe d'habitation.
Gérald Darmanin, le patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, est en prison au Japon, garde à vue prolongée. Est-ce que le gouvernement a pu entrer en contact avec lui ?
Il me semble que l'ambassadeur de France au Japon, ait pu rencontrer M. Ghosn, en effet.
Il vous semble ?
Oui, bon, d'abord, c'est une histoire compliquée, sur laquelle moi je n'ai pas d'opinion, d'abord parce qu'il y a le secret fiscal.
Mais Gérald Darmanin, est-ce qu'en France, par exemple, la situation fiscale de Carlos Ghosn est irréprochable?
Je suis le ministre des Impôts et je ne dévoile aucun montant d'impôt, ni pour personne, ni pour M. Ghosn, ni pour Mme Michu. En l'occurrence, je constate que M. Ghosn n'est pas au-dessus des lois, manifestement, ni françaises, ni japonaises. S'il a fraudé le fisc, il sera poursuivi, et avec la plus grande sévérité, mais il a le droit, comme tout le monde, à la présomption d'innocence.
Et prendre la défense d'un grand patron qui aurait fraudé le fisc, c'est délicat en plein mouvement des Gilets jaunes.
Mais moi, attendez, il faut un petit peu comprendre dans quelle situation on est. Voilà un homme qui arrive au Japon. C'est un grand patron franco-japonais, puisque vous savez qu'il est au Renault-Nissan. Il descend de son avion, il est arrêté. Il est au commissariat de police du Japon. Il a manifestement plusieurs jours de garde à vue. On lui reproche des faits très graves. Si jamais ces faits sont révélés, évidemment, la France sera aux côtés de ceux qui l'accusent et il n'y a aucune raison d'être particulièrement complaisant avec M. Ghosn, dont je vous rappelle que c'est ce gouvernement qui lui a demandé et il l'a fait de baisser 30% son salaire. Mais il n'y a aucune raison non plus, a priori, de le jeter aux gémonies. Je n'ai aucun élément en ma possession qui me permet de vous le dire et de manière générale, je suis très protecteur du secret fiscal.
Gérald Darmanin, hier s'est ouvert le congrès des maires. François Baroin, président de l'Association des maires de France, à votre place hier, n'a pas du tout apprécié que vous publiez les noms des maires qui ont augmenté le taux de la taxe d'habitation. On va l'écouter.
Un ministre qui est en charge du budget et qui utilise l'administration fiscale pour publier une liste de gens qui augmentent la taxe d'habitation ne respecte pas en quelque sorte l'esprit, la lettre de la Constitution, puisque la libre administration des collectivités locales est garantie par notre loi fondamentale. Une commune, c'est pas une succursale de l'État, encore moins une filiale.
Quand vous décidez d'utiliser les fichiers de l'administration pour clouer au pilori les maires qui ont osé vous défier, c'est pour rappeler que tout se décide à Paris et que la province n'a que ça à exécuter ?
Moi, j'ai bien fait de venir ce matin. Monsieur Baroin n'est pas sérieux quand il le dit. C'est lui, quand il était ministre des Comptes Publics, qui a créé le site Open Data. Moi, j'ai utilisé les données que notamment a permis de créer M. Barouin lorsqu'il était ministre des comptes publics. D'ailleurs,
et de faire de la délation.
Pas de la délation. J'ai publié les taux de taxes d'habitation par commune. Vous savez, moi, j'ai été maire. Et chaque année, j'ai baissé le taux de la taxe d'habitation. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Troyes, mais en tout cas, à Tourcoing, ça a baissé de 2% chaque année. Il me semble d'ailleurs que M. Barouin donne des grandes leçons de moins de dépenses publiques. Et je constate qu'il est pour baisser les impôts au niveau national. Mais alors, dès qu'on dit le nombre de communes qui ont baissé et qu'augmenté les taux, ça intéresse les Français. C'est des délibérations publiques, c'est leur impôt. Ça me paraît normal de ne pas publier non pas les noms des maires. J'ai publier le nom des maires, mais le nom des communes. Et je le referai l'année prochaine, sans aucune espèce de difficulté, parce que les Français doivent savoir qui augmente et qui baisse ses impôts. Vous voyez, ce qui est très inquiétant, c'est la façon dont aujourd'hui les élus, lorsqu'ils sont en responsabilité, fait comme M. Barouin, des choses responsables. Notamment, c'est lui qui a baissé les dotations aux collectivités, M. Barouin. Il a voté la loi NOTRe, M. Barouin, par exemple. Et lorsqu'ils sont dans l'opposition, disent parfois n'importe quoi. Moi, je pense que si Mme Le Pen a fait autant de voix, c'est parce que les hommes politiques font ce qu'ils font là, c'est-à-dire se rejettent la patate chaude. Voyez, moi je pense que c'est pas responsable. J'ai été maire et lorsqu'on est président de l'AMF, me semble-t-il, mais c'est mon opinion personnelle, on doit faire moins de politique et un peu plus de protection des maires. Je crois que M. Pélissard et M. Delevoye le faisaient avant M. Barouin. Je regrette qu'on fasse un peu trop de politique politicienne.
Merci Gérald Darmanin.
Merci.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. C'est tous les jours à 8h15 sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h28.
À suivre à 8h30 la revue de presse avec David Abiker. À 8h45 la revue de presse avec l'ami Canteloup. A tout de suite.
Et tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Le froid, les pluies dans le sud.
Voilà, j'ai résumé. Il y a le froid à la fois. Le froid qui est vraiment très présent ce matin, pratiquement sur toute la France, que nous sommes encore dans de l'air froid venu de Sibérie. Et puis la douceur qui remonte de Méditerranée, qui apporte de la pluie, des orages, à la fois sur le delta du Rhône, ça remonte un petit peu dans la vallée du Rhône en s'atténuant, mais tout le bassin méditerranéen sera pris progressivement par ces pluies. Donc nous avons deux événements concomitants, et ces deux événements vont finir par se rejoindre, au point que, mais se rejoindre en s'apaisant, puisque l'anticyclone remonte, ce qui signifie que demain sera une journée. Il sera une journée très agréable demain, finalement.
Tant mieux.
Une journée ensoleillée à peu près partout. Donc, mais ce sera une parenthèse. Mais quand même, demain, on aura un bon répit. En attendant, si vous avez froid, chers amis, ne vous inquiétez pas. Dans la journée, les températures vont remonter, y compris dans la capitale qui était hier l'une des villes les plus froides de France. On est passé de 2 à 5 degrés. Voilà.
Pensez ce matin pour toutes les associations et tout le personnel qui s'occupe de ceux qui n'ont pas de domicile fixe et qui dorment dans la rue. Grande pensée ce matin.
Par ce grand froid.
Juste après la revue de presse, on passera un coup de fil à M6 Solar. C'est Linda Costa, à 8h40, c'est Nicolas Canteloup qui viendra justement pour sa revue de presque.
Nous sommes le mercredi 21 novembre, il est 8h32.
7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Tout de suite la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Bonjour Monsieur Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
Bonjour.
À la une ce matin, une plainte, mais pas la plainte des maires, pas davantage celle des gilets jaunes ou des infirmières, non. La plainte contre l'État du maire Europe Écologie Les Verts de Grande-Synthe dans les Hauts-de-France. Une plainte pour inaction climatique. La Voix du Nord et le Parisien nous apprennent ce matin que Damien Carême, avec le soutien juridique de l'avocate et ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage, dépose un recours contre l'État pour exiger que la France réduise drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. C'est une première. Le maire a en tête évidemment les efforts de sa commune pour réduire de 40% ses émissions, mais aussi le niveau de la mer qui monte et menace l'avenir des 22 000 habitants de Grande-Synthe. Alors un recours qui finalement n'a rien de surprenant si on ouvre le Monde du jour qui nous explique comment le chaos climatique va changer nos vies. Et en fait, si on regarde les unes des journaux de ce matin, celle de la Voix du Nord et celle du Monde, on s'aperçoit qu'on est à la croisée des chemins. D'un côté, des gilets jaunes qui ne lâchent rien sur la voiture, et ils ont leur raison, et de l'autre, des écolos qui ne lâchent rien sur la transition énergétique, et ils ont leur raison. En clair, les Français sont tiraillés entre le pouvoir d'achat et le pouvoir d'agir.
David Abiker, vous évoquez les automobilistes mécontents. La Voix du Nord est allée rencontrer les ouvriers de Renault.
Après l'arrestation de leur grand patron au Japon lundi, sur les sites de Douai ou de Maubeuge, les Renault sont écœurés, démotivés et le quotidien nordique rapporte ses propos, j'ouvre les guillemets. On se sent trahi. Il aurait mieux fait de nous payer des primes avec son argent. On nous a demandé des efforts et pendant ce temps, un patron que l'on décrivait droit et juste se fait un fric monstre. Presque logiquement, des ouvriers ont mis un gilet jaune sur leur tableau de bord. D'autres hésitent à rejoindre le mouvement de samedi. Dans les Échos, c'est pas du tout la même chanson. Le quotidien économique se pose des questions sur cette justice japonaise qui n'a pas mis en question les dirigeants de SEPCO qui géraient la centrale de Fukushima. pas davantage ceux de Takata, qui était la société qui commercialisait des airbags, dont le dysfonctionnement est à l'origine de 20 morts, et pas non plus ceux de l'Impus, qui durant des années ont trafiqué leur compte. C'était évidemment des dirigeants japonais. Les échos ont conclu que Carlos Ghosn n'avait finalement pas beaucoup d'amis à Tokyo, mais pas sûr qu'il en ait beaucoup dans les usines françaises.
Après l'amertume des ouvriers, la santé des paysans, David.
Avec le courrier Picard qui publie les premiers résultats d'une enquête géante sur les cancers en milieu agricole. 12 000 agriculteurs Picard ont renseigné cette étude sur les risques de cancer professionnel en milieu rural. Eh bien, les résultats montrent qu'ils vivent plus longtemps avec moins de cancer que les citadins, sans doute parce qu'ils fument moins, sans doute aussi parce que l'usage des pesticides est moins nocif que la cigarette. Et on va retrouver d'ailleurs ces pesticides en une de l'Ardennais, de Centre Presse ou de Libération Champagne, avec la publication hier du classement des départements les plus accros aux pesticides, publié par l'association Écolo Génération Future. Elle a décerné les Glyph Awards, les trophées du glyphosate, parmi les lauréats l'Aube et la Marne, qui sont des très gros consommateurs. Et parmi les moins accros, l'Aveyron, se réjouit Centre Presse, où les paysans épandent plus volontiers des amendements naturels. À découvrir aussi, Nikos, dans Libération, une enquête de l'INSEE sur les 65 ans et plus, leur avenir professionnel. Ils sont 13 millions en France. Ils vont vivre mieux et plus longtemps, mais ils vont travailler vieux. Voilà ce qui nous attend. On ira au boulot en déambulateur et on assortira nos charentaises à nos gilets jaunes.
David, on va terminer avec un coup de chapeau.
On pourrait, oui, saluer ces médecins qui aujourd'hui vont opérer à Nantes Priscilla, une patiente amputée des membres inférieurs et du bras, pour la faire bénéficier d'un bras droit bionique. Bionique, c'est le mot employé par West France. Ils vont reconnecter les nerfs qui commandaient le poignet, le coude et la main à sa nouvelle prothèse via des capteurs commandés par le cerveau. C'est une première en France, ça peut augmenter l'autonomie de 50 à 500%. Priscilla a expliqué à West France qu'elle n'avait rien à perdre, que ça faisait avancer la médecine. Elle a aussi confié qu'elle fait déjà du ski et de la plongée. Bref, même avant le bras bionique, Priscilla, c'était quelqu'un d'hors norme.
L'homme qui valait 3 milliards, Steve Austin. C'est bien ça.
C'était bien ça, ouais. C'est la super nana, là, pour le coup.
Ouais, c'était super Jimmy, en fait, ouais. Qui, elle, pouvait écouter à travers les portes, comme vous lisez entre les lignes de la presse quotidienne. David Abiker, tous les jours sur Europe 1, aux alentours de 8h30.
Europe 1.
Il est 8h37.
À suivre, c'est votre journée. Coup de fil à MC Solar, une tournée dans toute la France, un concert demain à Paris, et toujours le même rythme et cette plume aussi belle qu'acérée.
Il est 8h39, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliegas.
Carlos Ghosn a-t-il été piégé par les Japonais ? Nos confrères britanniques affirment que le patron de Renault s'apprêtait à mettre en place une fusion irréversible entre Renault et Nissan. Sa garde à vue vient d'être prolongée ce matin de 10 jours. Cette information Europe 1, les bureaux de tabac vont être autorisés à partir du 1er janvier à vendre des bitcoins, la fameuse monnaie virtuelle. C'est le fruit d'un accord entre la Fédération des buralistes et la Banque de France. Tous les détails sur Europe1.fr. Theresa May attendue aujourd'hui à Bruxelles. La première ministre britannique doit régler les derniers points en suspens pour boucler le Brexit avant le sommet spécial de dimanche.
Europe 1, Nico Saliegas, c'est votre journée.
Bonjour MC Solar.
Bonjour Nico.
Vous sortez un nouveau single extrait de votre album géopoétique, ça s'appelle Les Mirabelles. Et derrière ce titre, vous plongez dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. On est plutôt raccord avec l'actualité et le centenaire de l'armistice.
Oui, c'est assez raccord. Au départ, je voulais faire une anti-sèche pour qu'un scolaire puisse avoir quelques éléments pour avoir une bonne note dans un devoir. Oui, c'est les hasards. Hein. D'habitude, on fait le tube de l'été et là, j'ai fait quelque chose qui est en raccord avec l'actualité. Mondiale.
Vous, en tant qu'artiste, vous êtes sensible à ces thèmes de l'actualité. Vous vous en nourrissez aussi dans votre album et vous les transposez à travers une approche plus poétique.
Oui, c'est vrai que souvent, j'ai quelques thèmes et puis les artistes ont des thèmes. En fait, ce sont souvent leurs peurs et leur envie de ne pas voir de redites, que l'histoire ne zozote pas la même chose. Et l'angle, par exemple, que j'ai pris sur les Mirabelles, c'était un angle de paix. Ça parle d'un village qui a perdu ses habitants à cause de la folie des hommes. Quand je le vois aujourd'hui, dans le contexte, je sais que derrière ça, j'ai une espèce de volonté de dire aux gens, faites attention, il risque d'y avoir des choses particulières si on ne fait pas attention.
Il y a des gueules cassées pour les blessés, prothèses et pansements. Face à face, ils se font front dans les tranchées. Et avant tout ce manège, j'étais un village enchanté. Extrait.
J'en ai vu lutiner, flâner ou glaner des pelletés de Mirabelle vers la fin de l'été. Je crois que l'unique chose qui a changé ma vie fut l'arrivée des taxis, ils sont pleins. Selon mes recoupements, il y a des gueules cassées pour les blessés, prothèses et pansements. Face à face, ils se font front dans les tranchées. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté.
MC Solar sur Europe 1 ce matin, en pleine tournée. MC Solar, vous serez en concert demain à l'Accor Hotel Arena. Et c'est vrai que cette tournée, c'est l'occasion pour vous de retrouver le public qui a grandi avec vous. Vous n'aviez pas sorti d'album depuis 10 ans. Vous êtes revenu et le succès a été confirmé. Mais vous retrouvez aussi ceux qui vous écoutaient il y a une vingtaine d'années et qui ont grandi et qui vous suivent et qui viennent peut-être aujourd'hui avec leurs enfants.
Ouais, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont pas de la même génération. Et alors, j'ai deux surprises. Un, bien sûr, le plaisir de donner, comme on appelle ça, un éclectisme des différentes périodes. Et la deuxième chose, c'est de voir des gens qui sont là malgré ces 10 ans de calme, d'absence. Et c'est ça qui me touche le plus.
Merci d'avoir été notre invité, MC Solar. Et on vous retrouve demain sur la scène de l'Accor Hotel Arena. Vous êtes en tournée dans toute la France. Merci.
Merci.
Europe 1.
Il est 8h42 à suivre, Nico Saliagas.
Vous voulez vous détendre un peu ce matin ? Rire, sourire, passer à autre chose. La revue de presse qui arrive avec Julie et Nicolas Canteloup. A tout de suite sur Europe 1. Bonne journée.
7h, 9h.
Il est 8h45.
Il est insortable, inimitable, intraitable, mais il nous fait du bien avec Julie. Tous les jours, c'est Nicolas Canteloup, la revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Cantu. On va commencer avec le rappel du titre principal de l'actu, Nikos.
Eh oui, ben Julie, salut, c'est Nikos, bonjour à tous, salut, bonjour. C'est l'actu surround. L'actu surround, c'est bien sûr Carlos Ghosn, qui est actuellement en garde à vue. Europe 1 va plus loin, Europe 1 va jusqu'au Japon, à Shanghai, et n'hésite pas à se mobiliser pour défendre Carlos Ghosn. Jean-Michel Apathy, un scoop, je crois, que vous avez sur Carlos Ghosn.
Oui, tout à fait, Nikos, car j'ai lu la presse japonaise ce matin, je lis effectivement le japonais, je vous cache pas que ça a été un peu galère pour aller au kiosque à Tokyo et être à l'heure pour la matinale. Attention, c'est peut-être, disons-le, peut-être un coup monté. Et là-dessus, Nicolas Barré a son avis.
Oui, oui, bonjour, bonjour Michel.
Non, non.
Effectivement, il est possible que ce soit un coup monté de Hiroto Sakawa, le numéro 2 de Nissan, ou peut-être de son bras droit, Ushisi Kifuku, ou son possible successeur, Ifunia Puchi, tout dans le placard. Enfin, tous ces grands patrons que nous évoquons régulièrement dans les échos, dont je suis le directeur.
Terrible.
Merci Nicolas, terrible. Merci Jean-Michel Apathy. On va donc parler des ennuis fiscaux de Carlos Ghosn. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire est avec nous. Bonjour Monsieur Le Maire.
Oui, bonjour Nico Saliaga, bonjour Madame Leclerc.
Bonjour.
Bonjour à tous les sous-fifres.
Bonjour.
Vous savez, je comprends, j'en suis aussi. Je sais ce que vous vous dites en me voyant arriver dans ce studio.
Bah, on se dit quoi ?
Vous dites Bruno Le Maire est là. Nous allons bien nous marrer. Il y a de la bonne rigolade en perspective.
Pas forcément. Hein. Bon, alors, pourquoi en France, Carlos Ghosn était tranquille, alors qu'au Japon, il est en garde à vue ?
Bien, pour une raison très simple, Madame Leclerc. Parce que Monsieur Ghosn était parfaitement en règle en France. J'ai d'ailleurs ici, et je voulais emmener, à dessein, sa feuille d'impôt.
Ah, alors ?
Voilà. En 2017, Monsieur Ghosn, puisque c'est une affaire publique aujourd'hui, a déclaré un revenu de 1700 euros brut par mois, soit 20 000 euros par an.
Oui, bien sûr.
Et il a payé, laissez-moi terminer s'il vous plaît, et il a bien payé, rubis sur l'ongle, ses 6 300 euros d'impôt, soit 33% de taxes, puisque c'est l'impôt.
Oui, je confirme, c'est 33% de taxes. C'est l'impôt sur les sociétés.
Mais laissez-le tranquille.
Oh là là.
Donc je le dis, monsieur Barré peut en acquiescer, l'attester, tout est en règle, madame. Il n'y a pas lieu de contrôler au-delà, monsieur Ghosn.
Bon, bah, il ne gagnait pas 20 000 euros par an en France, hein. Il gagnait 5 millions d'euros, monsieur le maire.
Pardon, combien dites-vous ?
5 millions.
Oh la pute. Putain de ta mère! Il prenait 5 boules pour faire des kangous? Bon, là, je dois vous avouer que je ne suis pas content. Je pousse la gueulante. Vous poussez le bouchon trop bien, monsieur Ghosn. Je vous vire de chez Renault, monsieur Ghosn.
Ah, oh, bah dis donc. Une réaction de Nicolas Barré, peut-être, à propos oui. De Carlos Ghosn, toujours.
Oui, je tiens à dire, c'est sûrement un complot. Un complot de Nissan. Carlos Ghosn a probablement été piégé alors qu'il a fait un travail formidable en sauvant Nissan et Renault. Donc, n'accusons pas trop vite, Carlos Ghosn, c'est peut-être un coup des Chinois.
Oh bah c'est ça. Merci Nicolas Barré. On ne sait pas pourquoi, mais cette affaire de fraude fiscale nous a donné envie de recevoir Jérôme Cahuzac. Bonjour Monsieur Cahuzac.
Madame Leclerc, les yeux dans les yeux, le botox dans le front, et les poils de mes mollets réimplantés sur le haut de mon crâne. Oui, j'en ai en su, si quelqu'un en veut, j'ai un point à rajouter.
Oh, pitié.
Je n'ai jamais, jamais, madame, messieurs, implanté de cheveux à monsieur Carlos Ghosn, car j'aurais fait un bien mieux travail que celui que l'on peut voir à l'œil nu. C'est quand même complètement con d'être milliardaire et d'avoir des faux cheveux réimplantés aussi moches, peints en noir avec de la peinture de bagnole.
Tiens, Nicolas Barré, vous vouliez redire un petit mot
peut-être ? Oui, alors oui. Concernant ses cheveux, c'est sa couleur naturelle à monsieur Ghosn. Car la maman de Carlos Ghosn, j'ai fait une enquête, est brésilienne et son papa est un corbeau. C'est dans les Échos ce matin.
Oh, bon, tiens, on va l'acheter. Bon, merci Nicolas Barré. Le mouvement des Gilets jaunes continue, mais notre président se tient toujours en retrait. Bonjour Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à toutes.
Les Gilets jaunes ont été rejoints par les routiers, par les infirmières et aussi par des collégiens. Ça ne vous inquiète pas, ça ?
Oui, je sais. Je sais que les Gilets jaunes ont été rejoints, plus exactement, par les blouses blanches et par les ados, les boutons blancs.
Non. Oh !
Eh bien, nous percerons les boutons blancs et nous percerons également les blocages de boutons blancs. Mais au-delà, je sais qu'il y a des sous-groupes chez les Gilets jaunes, notamment les gros nez rouges.
Non, les bonnets rouges.
Oh, non. Les gros nez rouges.
Ah,
ils sont nombreux sur les barrages, ils sont rôtis à la Cronenbourg dès 8h30 du matin. Il est heureux qu'ils bloquent les voitures d'ailleurs et qu'ils ne prennent pas la leur, car il est interdit de rouler autant bourré.
Merci, Monsieur le Président, pour ces conseils. Le ministre de l'Économie l'a fait savoir hier. Ils n'ont trouvé aucun signe de malversation financière de la part de Carlos Ghosn, qui a donc été arrêté lundi au Japon pour fraude fiscale. On est en duplex avec lui, avec Carlos Ghosn.
Oui, bonjour, Madame Sully. Oui. Bonjour à tous. Écoutez, je n'ai pas fraudé en France. Fraudé au Japon me demanderait suffisamment de temps pour cela, et je ne peux pas tout faire à la fois.
Pardon, vous admettez donc avoir fraudé au Japon ?
Ben non, mais bien sûr que non, je suis ironique. Je suis scandalisé par l'histoire qui m'arrive. Quand est-ce qu'on va nous laisser tranquilles, nous, les amoureux de la voiture ? Alors, en France, il y a les Gilets jaunes qui arrêtent les automobilistes, et au Japon, il y a carrément les jaunes qui arrêtent les constructeurs automobiles.
Ah, dites donc, c'est raciste de dire ça !
Je m'en fous, je proteste. Et j'invite tous les ouvriers, vous m'entendez, sur votre antenne, j'invite tous les ouvriers de Renault à me soutenir en bloquant des ronds-points et en portant des gilets gaunes.
Ah, le gilet gaune ! Oh là 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 !
De ce point, je vais mettre tout de suite un gilet gaune.
Nicolas Barré en gilet gaune, bon. Non, Nicolas, Mathias, puisque vous êtes revenu, vous l'aimez tant que ça, Carlos Ghosn ?
Ben oui, il m'a offert une Twingo.
Ah bon ?
Laissez-le tranquille, Nicolas Barré.
J'ai une Twingo marron pendant 40 ans. Qu'est-ce que j'ai pu emballer dans ma Twingo marron à siège jaune ?
Ah, Twingo marron à siège jaune, waouh ! C'est pas mal ça, hein ?
Non, c'est pas vrai, j'aurais bien aimé.
Ah, c'est pas vrai ?
En tout cas, quand ma Twingo est morte, Carlos Ghosn était là pour atténuer ma peine en m'offrant une Twingo verte.
Laisse-le
merci
tranquille.
Nicolas
arrête,
Barré.
Arrête
tous
les
l'embêter.
Matins, je vais aux Échos voir ma Twingo.
Arrête de l'embêter.
Oh là là. Bon, on comprend mieux effectivement, cher Nicolas Barré. Allez, on va, pour terminer, reparler de l'album posthume d'Alain Bashung, réalisé à partir de bandes sonores retrouvées.
Magnifique.
Et c'est un succès, hein, un succès critique. La presse salue le travail d'Edith Fabuena, qui a réorchestré l'album et qui avait déjà travaillé avec le chanteur sur l'album Fantaisie militaire.
Oh oui. Edith Fabuena, oui, Julie l'a fait, elle est super, Edith Fabuena.
Bonjour Laetitia. Mais vous la connaissez, Edith Fabuena ?
Oui, c'est elle qui a réorchestré le prochain album posthume de Maman.
Oh non, vous n'allez pas recommencer avec vos bandes retrouvées, là. C'était son répondeur, on le sait bien.
Mais là, j'ai retrouvé d'autres vraies bandes. Je vous jure qu'elles sont tellement émouvantes, tellement super.
Mais c'est quoi ces bandes, alors ?
En fait, c'est un petit dictaphone qu'il y avait dans le bureau de Maman.
Oui.
C'est là qu'il composait ses chansons. Mm-hmm. Il dictait tout ce qui lui passait par la tête. Et je vous jure qu'il y a une chanson qui est tellement personnelle.
Ah bah cette fois-ci ça a l'air sérieux, on peut l'écouter ?
Oui, vous allez voir, c'est une chanson très très personnelle.
D'accord, oui oui.
Alors, pensez à racheter du whisky, parce qu'il n'y a plus de whisky, la vodka aussi,
Le vin, c'est bon. De la bière aussi. La bière
enfin,
aussi.
Laetitia, c'est pas une chanson.
De la bière aussi. La bière aussi. De la bière aussi.
Laetitia, c'est pas une chanson.
Ça, Nico, ça a tellement l'oreille, ça a été samplé. Oui,
oui bravo. Bravo.
Oui.
Bon, mais dites-moi, c'est quoi là c'est... Les paroles là, c'est quoi c'est...
Alors, les paroles sont de Laurent Cabrol.
Tiens, prends ça, Laurent.
Oui, il m'a fait écouter dans la Twingo.
Vous n'avez pas l'air convaincu. Mais il paraît qu'attendez, il y a une autre bande super, c'est Edith qui me l'a dit. On peut l'écouter?
Ah bah bien sûr, oui.
Oui.
On y va, oui, oui,
c'est
oui.
Un inédit, je crois.
Message du 13 octobre 2017. Moi, Jean-Philippe Smet, saint de corps et d'esprit, je déclare légué tout mon héritage à mes enfants. Jade, Joy, David et Laura.
Non mais
Jade,
que...
Joy, David et Laura.
Non mais c'est quoi c'est... Non, arrêtez ça,
David
mais
et Laura.
Il ne faut pas la sortir cette bande. Mais quel code, cette Edith? Non,
c'est Edith,
non.
Qu'est-ce que vous voulez?
Vous êtes un grand malade, Nicolas Grandclos.
Il lâche rien.
Vous êtes un grand malade, mais on signe la feuille de maladie tout de suite et à vie avec vous. Merci, c'était la revue de presse avec Julie. Question tous les matins, 9h-11h sur Europe 1, au sommaire de votre émission, ma chère Wendy Bouchard.
Alors là, on s'est fait du bien, mais on va parler d'un sujet sérieux avec de l'espoir. Cela dit, on reviendra sur la journée des enfants, des droits des enfants. Quels constats, quelles initiatives pour lutter contre les plus déshérités, les exclus? Ces 30 000 enfants, par exemple, en France qui dorment dans la rue. 9 000 enfants qui, selon l'UNICEF, vivent dans des bidonvilles en France aujourd'hui. Si vous travaillez dans l'associatif, si vous êtes éducateur notamment, vous pouvez nous appeler pour témoigner au 39-21. Je vais recevoir Valérie Trierweiler, qui est avec nous et qui est marraine du Secours Populaire, le père Pedro qui vient pour quelques jours en France de Madagascar où il a créé là-bas une cité de l'espérance pour réinsérer ses enfants exclus. Justement, il fait un travail absolument admirable. Et Olivier Noblecourt, chargé de ce sujet au nom du gouvernement, sujet fort sur lequel on fait le point jusqu'à 10h ce matin.
Merci Wendy Bouchard. On se retrouve dans quelques instants, dès 9h sur Europe 1.
Il est 8h59, tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Trois types de temps sur le pays aujourd'hui.
Premier temps, de la pluie, du vent, des orages. C'est le cas sur le bassin méditerranéen. Ce sera le cas tout au long de la journée, ainsi que dans la vallée du Rhône, oui. Où les pluies remontent en s'atténuant. Deuxième type de temps, Champagne-Ardenne, région parisienne, Auvergne et Roussillon. Très mitigé, mais un temps sec. Et puis le troisième type de temps, le soleil, sur le littoral de la Manche, le littoral atlantique, le sud-ouest et le Poitou-Charentes. Les températures partout seront en hausse de 2 à 3 degrés.
Une valse à trois temps à suivre tout au long de cette matinée avec vous, cher Laurent Cabrol. Et puis l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater ce matin. Carlos Ghosn a-t-il été victime d'un coup monté? C'est ce qu'avance le Financial Times. Selon le journal britannique, il prépare une fusion entre Renault et Nissan. Un projet qui lui a valu apparemment beaucoup d'ennemis. Explication de Nicolas Barré, c'était dans le journal de 8h.
Carlos Ghosn, depuis longtemps, avait le projet de rendre l'alliance irréversible. Cela devait passer par une fusion en bonne et due forme. Les Japonais au plus haut niveau chez Nissan n'en voulaient pas. En fait, il y avait un camp chez Nissan qui cherchait par tous les moyens à faire échouer le plan de Ghosn. Plan qui aurait donné à Renault, une fois pour toutes, des pouvoirs plus importants. Carlos Ghosn écarté, les Japonais espèrent que le projet l'est aussi. Le bras de fer n'est pas terminé.
Quand actualité et humour font bon ménage, il y a Nicolas Canteloup, mais il y a aussi nos auditeurs qui réagissent, comme Marie-France, qui nous écrit sur Twitter « On pourra dire que Carlos Ghosn est mal barré », pour rester dans cet esprit. Le congrès des maires de France se poursuit à Paris. Plusieurs centaines d'élus doivent être reçus en fin de journée à l'Élysée, mais ils seront nombreux à bouder l'invitation d'Emmanuel Macron, comme David Lisnard, le maire de Cannes. Il était mon invité à 7h45.
On sait très bien que de cette réunion, il ne sortira rien hormis des déclarations d'intention. Posons la nécessité de voir comment on sauve les communes qui sont vraiment l'échelon de proximité. Vous savez, les maires, tous les jours, ils recousent le tissu social. On n'a pas de visibilité aujourd'hui. On manque de liberté. Le malaise des maires, il vient souvent de là. On veut être responsable. On veut qu'on nous laisse travailler. On veut rendre des cotes. On veut être contrôlé, mais être libre d'agir dans l'intérêt commun.
Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci de nous avoir suivis ce matin. Je vous laisse entre les mains expertes de Wendy Bouchard pour le tour de la question. On est là, avec vous. Prenez soin de vous. À demain.